18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à tous et à toutes sur Europe 1. On est ravis de vous retrouver pour deux heures d'information, d'analyse et de débat. C'est votre grand journal du soir avec l'info, le journal complet de Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, la tempête Gloria qui frappe le sud de la France. Nous serons à Argelès dans les Pyrénées-Orientales dans un instant. Et le point complet avec vous Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Les prophètes de malheur, ce sont les propos de Donald Trump visant l'activiste Greta Thunberg ce matin dès l'ouverture du sommet de Davos en Suisse, dans ce face-à-face qui peut l'emporter. Je poserai la question au philosophe Bernard Tigler qui vient de publier La leçon de Greta Thunberg. 19h30, vous êtes à plat, fatigué, déprimé, c'est normal cette saison. Son livre cartonne en librairie, Les clés de votre énergie. Natacha Calestrémé répondra à toutes vos questions et vous donnera des clés à 19h30. C'est votre grand journal du soir pour écouter ensemble le monde changer. On s'élance jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Les cours d'eau vont monter très vite, vont déborder et ça va inonder les maisons. C'est en tout cas ce qu'on craint.
Beaucoup de pluie attendue et déjà des vagues géantes. Le littoral des Pyrénées-Orientales pris dans la tempête Gloria, tempête déjà meurtrière en Espagne.
Et puis bien sûr, de plus gros arrivent cette nuit. Nous sommes sur place dans quelques secondes.
Un passe d'armes sur le climat au milieu des patrons à Davos face à Greta Thunberg. Donald Trump fustige les prophètes de malheur.
Les actions coup de poing de la CGT Énergie, nouvelle coupure de courant. Le Premier ministre Édouard Philippe demande des sanctions.
Tout cela, c'est méconnaître la démocratie. Tout cela, c'est méconnaître la loi et tout cela doit être sanctionné.
Dans ce journal également, comment réduire le plastique dans notre quotidien? Dernière étape pour la loi anti-gaspi à l'Assemblée.
Faut-il s'inquiéter du virus chinois? Réunion à l'OMS demain et Didier François dans ce grand journal du soir.
Et puis les doutes de Joe Wilfried Tsonga sur son avenir. Il abandonne l'Open d'Australie.
On est toujours un peu inquiet dans ces cas-là, évidemment. Le problème, c'est que mon corps, voilà, aujourd'hui, il a subi des blessures presque irréversibles.
La Bourse de Paris en repli ce soir de 0,54% à 6045 points.
Et la tendance météo, Anissa?
Alors la tempête Gloria, Nathalie, elle est toujours très active dans le sud. Hein. On en parle plus en détail dans ce journal. Partout ailleurs, sur toute la moitié nord de la France, c'est du grand et beau soleil demain avec des températures toujours hivernales.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
La Méditerranée en furie qui grignote le littoral. Les images sont particulièrement impressionnante, des vagues de plusieurs mètres et l'écume qui recouvre parfois les plages. C'est la tempête Gloria qui a déjà fait 3 morts en Espagne. Elle frappe depuis hier soir les Pyrénées-Orientales avec beaucoup de vent, encore de fortes pluies attendues dans les heures qui viennent. Benjamin Péter, vous êtes à Argelès-sur-Mer. Ce qu'on craint, ce sont surtout des inondations.
Oui, parce que si pour le moment c'est l'accalmie, les pluies doivent s'intensifier en milieu de nuit. Et le risque va venir de la mer. Elle est très impressionnante en ce moment avec des vagues qui viennent lécher les maisons à bord de plage, secouées par un vent qui vient de l'est. Et cette conjonction de cumul important et de mer agitée, c'est ce que redoute le maire Antoine Parra.
Ce qu'on craint, c'est surtout ce qui va arriver. Ne pouvant se déverser dans la mer qui sera forte, les cours d'eau vont monter très vite, vont déborder et ça va inonder les maisons, c'est en tout cas ce qu'on craint. On espère que ça se passera différemment, mais les paramètres qu'on a aujourd'hui nous font craindre des inondations importantes.
Dans le village d'Argelès, c'est le cours d'eau La Marsanne qu'on surveille. Elle a déjà bien gonflé, des aquabarrières faites de bâches et de blocs en béton ont été installés pour limiter les débordements. Et pour les habitants, on se prépare à une nuit difficile, comme Francine, 82 ans, qui a fait installer des plaques en fer pour empêcher l'eau de rentrer dans sa maison.
J'ai tout remonté, si vous voyez le garage, tout est sur les hauteurs. J'ai monté la voiture chez ma sœur et puis on a mis le sèche-linge là-dessus. Et j'ai tout mis en sécurité, je ferme bien la porte, je mets des serpillères, j'ouvre la porte d'ici et elle va dans le jardin.
Voilà, alors ici le plan de sauvegarde communal doit être déclenché. Une cellule de veille va également être installée à la mairie. La commune qui a déjà reçu le renfort de 70 pompiers supplémentaires venus de toute la région.
Benjamin Péter à Argelès-sur-Mer pour Europe 1. Les Pyrénées-Orientales placées en vigilance. Pluie, inondation jusqu'à jeudi matin.
Eh oui, alors Anissa, je me tourne vers vous. Le plus gros, c'est pour cette nuit?
Oui, effectivement, c'est cette nuit qu'on attend les pluies les plus soutenues avec en moyenne 10 mm de cumul de pluie par heure. Alors il faut savoir aussi qu'il a beaucoup neigé ces dernières heures. Ce qui va se passer, c'est que le département va passer en vigilance orange avalanche, puisque cette neige risque de fondre. Et cette fonte des neiges va aussi alimenter les cours d'eau. Voilà pourquoi on attend des inondations, des avalanches avec le redoux des températures. Et puis on attend aussi sur le littoral des vagues submersion. Attention là aussi, vigilance orange au bord de la mer.
Et la météo complète bien sûr à la fin du journal. Côté espagnol, les dégâts sont considérables. 2600 km de route impraticables à cause de la neige et des éboulements. Plus de 200 000 foyers privés de courant en Catalogne.
Les dérèglements, les questions climatiques qui justement ont secoué aujourd'hui le forum de Davos dans la très chic station suisse. Sébastien.
Et la passe d'armes annoncée à bien eu lieu avec d'un côté Greta Thunberg, la jeune militante suédoise qui a rappelé à l'ordre les grands patrons. Rien n'a été fait, dit-elle. Et de l'autre, la réponse sans détour de Donald Trump.
Le temps n'est pas au pessimisme, car l'heure est un incroyable espoir, à la joie, à l'optimisme et à l'action. La peur et le doute ne sont pas de bonnes façons de penser. Et pour se saisir des perspectives d'avenir, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions d'apocalypse. Ce sont des discours d'un autre âge, celui des anciens diseurs de bonne aventure. Vous voyez de qui je parle, et nous voyons très bien de qui je parle. Ils décrivent un tableau bien noir, mais nous ne laisserons pas ça arriver.
Bonsoir Nicolas Barré.
Bonsoir.
Directeur du quotidien Les Échos, on vous retrouve en ligne de Davos. Donald Trump face à Greta Thunberg, c'est vraiment le duel du jour qui s'est invité au milieu des grands patrons ?
Oui, tout à fait. Alors c'est un peu le choc des générations également. Donald Trump, lui, il est clairement en campagne électorale pour sa réélection. Et donc, ça ne mange pas de pain, si je puis dire, de taper un petit peu sur ceux qui le qualifient des extrémistes de l'environnement qui se battent pour sauver la planète. Lui, c'est évidemment pas son fort. Il a été accueilli, je dirais, avec un peu de tiédeur par tous ces patrons qui étaient là et les dirigeants politiques. Parce qu'en face, évidemment, cette question du climat, elle est partout. Elle n'est pas seulement dans la bouche de Greta Thunberg. Elle a une conception peut-être un peu radicale des choses. Elle porte sur son visage un petit peu tout le malheur du monde. Elle est parfois dans l'excès quand elle dit que les médias ne relayent pas assez ses propos alors qu'il y a des caméras du monde entier devant elle. Mais en tout cas, c'est quand même une vraie question et sur laquelle Donald Trump n'apporte évidemment pas de réponse. On se souvient tous du retrait de l'accord de Paris.
Qu'est-ce qu'on retient de son discours aujourd'hui ?
Donald Trump, il était surtout là pour vanter les résultats économiques des États-Unis et pour montrer que face à la Chine, quand on est dur, on peut gagner. Et ça, c'est un message qui s'adressait vraiment aux Américains. Il est venu en Suisse pour parler à ses électeurs.
Nicolas Barré en ligne de Davos pour Europe 1. Merci beaucoup. On vous retrouve demain, inévitablement, dans la matinale de Mathieu Béliard dans le journal de 7h, comme chaque jour.
Donald Trump, très loin donc de son procès en destitution qui s'ouvre dans une heure devant le Sénat américain. Procédure qu'il a qualifiée aujourd'hui de farce et de chasse aux sorcières. Nous serons à Washington avec Xavier Yvon dans le journal de 19h.
Il est 18h06 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Doit-on s'inquiéter de ce mystérieux virus apparu en Chine ? Il a fait 2 nouvelles victimes, cela donne 6 morts à l'heure actuelle.
Et il préoccupe bien au-delà de l'Asie. L'Organisation mondiale de la santé se réunit demain. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
On sait maintenant que ce coronavirus qui provoque de violentes pneumonies peut se transmettre entre humains. C'est ça qui fait craindre une crise d'ampleur.
Oui, ça risque d'accélérer la vitesse de propagation. Comment ce virus va évoluer, c'est une question centrale. Dans quelques jours, c'est le nouvel an chinois. 450 millions de personnes s'apprêtent à voyager. Alors il va falloir trancher. Ce virus est-il une urgence de santé publique internationale, comme l'a été la fièvre Ebola ou encore le virus Zika? L'OMS va notamment décider s'il faudra restreindre les voyages vers la Chine, selon le professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon.
Est-ce que c'est quelque chose qui est circonscrit ? Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite qu'on limite les transports et les voyages ? Pour l'instant, l'OMS a dit non. Et puis de savoir aussi s'il y a une enquête un peu plus poussée venant justement des autorités de l'OMS sur place, puisqu'on sait très bien que maintenant, il y a des cas qui ont été décrits à d'autres régions de la Chine.
Enquête notamment pour avoir les vrais chiffres du nombre de personnes contaminées. Il y a un doute, effectivement, à Pékin, la population se méfie. Parce qu'il y a 15 ans, lors de l'épidémie de SRAS, l'État avait voulu minimiser la vérité. Il avait fallu attendre 3 mois pour que les autorités reconnaissent une crise majeure. Bilan final, plus de 700 morts.
Alors Pauline, le problème c'est que l'inquiétude, ça y est, elle a dépassé les frontières de la Chine à l'étranger. On tremble presque.
Exactement. Aux États-Unis, à Singapour, en Thaïlande, tous les passagers en provenance de Wuhan en Chine sont scrutés par les les autorités sanitaires. Pas encore de telles mesures en France. Cela pourrait changer, évidemment, suivant la décision de l'OMS demain. Mais les médecins sont priés de réorienter vers le SAMU les patients présentant une infection respiratoire aiguë et ayant récemment séjourné dans la ville de Wuhan.
Les précisions de Pauline Jacquot, merci.
Merci Pauline. On se retrouve avec Didier François sur ce sujet à 19h20 dans Demain dans le Monde.
La suite de votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Le gouvernement qui appelle à sanctionner les militants de la CGT qui coupent l'électricité. Nouvelle action ce matin. C'est à suivre dans votre édition de 18h.
Et puis les doutes de Joe Wilfried Tsonga sur son avenir. Il sort de l'Open d'Australie sur abandon.
Votre grand journal du soir, 2 heures d'infos jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Ils veulent maintenir la pression coûte que coûte et donc avec des actions quotidiennes. Les militants de la CGT ont revendiqué une grosse coupure de courant ce matin.
Orly, Rungis, Thau, aux aurores, plusieurs communes ont été touchées. Enedis va porter plainte et le Premier ministre à l'Assemblée tout à l'heure a demandé des sanctions.
Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant. Tout cela, c'est méconnaître la démocratie, tout cela, c'est méconnaître la loi, et tout cela doit être sanctionné. Car ça n'est pas acceptable. L'outil de production, il se respecte. Le service public, il se respecte. Nos concitoyens, ils se respectent. Lorsqu'on procède à des coupures sauvages d'électricité, on met nécessairement nos concitoyens, les usagers du service public, dans une situation qui est parfois périlleuse. Et ça n'est pas acceptable.
Édouard Philippe, propos recueillis par Jean-Rémy Baudot.
Bienvenue, Maud Descamps.
Bonsoir.
Alors, la CGT Énergie, elle assume, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle mène ce type d'action.
En effet, depuis décembre, il y a eu plusieurs coupures sauvages, notamment en Gironde, ce qui avait plongé dans le noir près de 50 000 foyers. Même chose à Lyon, à Nantes, à Toulouse, à Orléans. Ce matin, vous le disiez, c'était à Rungis. Le distributeur d'électricité, Enedis, nous a dit donc qu'il allait porter plainte, comme pour toutes les coupures précédentes. Ces coupures, elles pourraient être considérées comme portant atteinte à la sécurité des usagers. Et donc la justice pourrait estimer bien qu'elles ont mis en danger la vie d'autrui. Si c'est le cas, les auteurs de ces coupures sauvages s'exposent à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Et par ailleurs, sachez que le syndicat, donc ici la CGT Énergie, pourrait également être poursuivi et condamné. Ça avait déjà été le cas en 2006. La CGT avait dû dédommager EDF.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. C'est la suite de l'attentat de la préfecture de police de Paris. On apprend ce soir que 16 personnes ont été écartées des services de renseignement pour raison de radicalisation. Et cela sur les 5 dernières années, fait savoir Matignon. Et puis autre information, la demande d'asile continue d'augmenter en France, plus 7% en 2019.
Moins jeter et mieux recycler. Dernière ligne droite pour la loi anti-gaspi qui doit être adoptée par l'Assemblée ce soir même.
Loi dite pour une économie circulaire et qui change beaucoup de choses dans notre quotidien. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Avec notamment donc la confirmation de l'interdiction d'un certain nombre de produits en plastique jetables.
Oui, alors c'est pas facile de s'y retrouver. Depuis le 1er janvier dernier, les cotons-tiges en plastique sont déjà interdits à la vente. Mmh. Alors vous pouvez encore en trouver dans les rayons pendant 6 mois, c'est le temps que les stocks s'écoulent. Ça va aussi pour les assiettes de pique-nique en plastique, les gobelets et les verres vendus en lot. Attention, en revanche, les gobelets en plastique de la machine à café avec un liquide dedans sont encore autorisés pour l'instant.
C'est subtil.
Ensuite, dès l'an prochain, 2021, ce sera autour des pailles en plastique, des boîtes en polystyrène orange, vous voyez un peu type kebab, les touillettes pour votre café, les tiges pour les ballons de baudruche pour les enfants, tout ça interdit à la vente. Et puis, il y aura de nouvelles interdictions encore en 2022, par exemple, les sachets de thé, vous savez, il y en a qui sont les sachets eux-mêmes en plastique, en matière plastique. Et puis, autre chose, les emballages plastiques pour les fruits et légumes, les sachets de moins d'1,5 kg. Et encore une autre chose, si vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous ne pourrez plus distribuer à vos clients ou à vos salariés des bouteilles d'eau ou de soda en plastique gratuites. Et puis, la révolution dans les fast-foods, c'est pour 2023. On vous servira un cheeseburger dans une vraie assiette et le coca dans un vrai verre.
En verre, en porcelaine.
Oui, absolument.
Bon,
ouais,
alors, on n'y est pas encore, hein. Néanmoins, on a beaucoup entendu parler, Virginie, de l'idée de ressusciter la consigne pour les bouteilles en plastique. Là-dessus, le gouvernement, pour autant, il a reculé.
Oui, c'est Emmanuel Macron qui a assuré les maires que rien ne serait fait sans leur accord. Résultat, on ne parle pas pour l'instant de ce système où on rapporte ces bouteilles en plastique dans un grand conteneur sur le parking du supermarché, par exemple. Et donc, on récupère au passage quelques centimes. La décision a été repoussée à 2023, donc on en reparle à ce moment-là.
Virginie Salmen, merci, spécialiste environnement d'Europe 1. Et puis au Sénat, c'est la loi bioéthique qui entame son deuxième round de débat avec notamment l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes.
Le tennis maintenant, ça n'a pas été une très belle journée pour les Français du côté de l'Open d'Australie. Hein.
Alors on va quand même saluer les qualifications de Gaël Monfils, Benoît Paire ou encore Caroline Garcia et Alizé Cornet. Mais élimination pour Mladenovic, Humbert, Manarino, Moutet, Chardy. Et on retient ce soir surtout les doutes de Joe Wilfried Tsonga, 33e mondial, contraint à l'abandon pour cause de problèmes de dos à répétition.
On est toujours un peu inquiet dans ces cas-là, évidemment. On a envie finalement d'aller voir le docteur et que le docteur il nous dise bon bah c'est pas grand-chose, tu te reposes une semaine et tu repars, ou tu te reposes deux semaines et tu repars. Maintenant, arrivé à mon âge, le problème c'est que mon corps, voilà, aujourd'hui il a subi des blessures en presque irréversibles que je dois aussi gérer. Et c'est vrai que bah, je suis un peu désabusé parce que c'est une lutte qui est quotidienne.
Il s'interroge, Joe Wilfried Tsonga à 34 ans. Il était au micro de Georges Homsi.
Et puis on a un autre qui se porte mieux, c'est Alexandre Zverev.
Oui, alors lui, il a promis de donner toute sa prime à la lutte contre les incendies en Australie. S'il remporte le tournoi, c'est 3,5 millions d'euros.
C'est bien, incroyable et généreuse annonce, il en faut. Et puis on a une pensée ce soir, Sébastien, pour la famille et les proches de Sébastien Demorand, le critique gastronomique qui est décédé à l'âge de 50 ans.
Vous le connaissiez peut-être comme juré de l'émission Masterchef, mais c'est ici à la rédaction d'Europe 1 qu'il avait débuté sa carrière comme reporter, présentateur ensuite, avant de rejoindre le Goemio, le fooding aussi, pour assouvir sa passion pour ce qu'il appelait la bistronomie, terme dont on dit qu'il l'a inventé.
Un pédago du goût, hein, disait-on aussi. Merci beaucoup Sébastien, l'info revient avec vous dans 15 minutes. Anissa, du côté du ciel, les Pyrénées-Orientales, on l'a dit déjà, placées en vigilance orange.
Oui, effectivement Nathalie, le département est placé en vigilance orange pluie, et puis attention aux avalanches parce qu'il a beaucoup neigé, il va encore beaucoup neiger, et avec le redout des températures, eh bien, les avalanches peuvent se développer. Alors encore demain sur les Pyrénées-Orientales, c'est une forte activité qui est attendue, même pour les prochaines heures, cette nuit, avec des pluies soutenues, même des pluies orageuses. La neige va tomber à partir de 1600 mètres, donc vous le voyez, la limite plus neige, elle remonte quand même pas mal. Sur le golfe du Lion, le vent d'est souffle aussi, lui, à 80 km/h en rafale. D'où le risque de vagues submersion sur tout le golfe du Lion cette nuit et demain. Ne vous baladez pas au bord de la mer. À l'ouest de cet épisode méditerranéen, sur l'Occitanie et le Massif central, même jusqu'au delta du Rhône, eh bien là, ce sont des petites pluies locales qui vont se déclencher demain matin. Sur les Cévennes, il va neiger à partir de 1000 mètres d'altitude. Et puis partout ailleurs, la journée est plutôt calme. Partout ailleurs en France, bien sûr. Attention demain matin, à l'est, en Alsace, sur le Val de Saône, la vallée du Rhône. Là, ce sont des brouillards givrants qui sont attendus pour le début de journée. Après la dissipation de cette grisaille, eh bien c'est une journée très ensoleillée sur quasiment toute la France. Les températures, elles sont froides encore le matin. Moins 5 à Clermont-Ferrand, moins 3 à Belfort, moins 1 à Paris. Dans l'après-midi, nous aurons 5 à 18 degrés. 5 pour Paris, jusqu'à 18 à Ajaccio.
Europe 1.
Dans un instant, dans votre grand journal du soir sur Europe 1, votre invitée Nathalie Lévy.
Le face-à-face à Davos, virtuel en tout cas, entre Donald Trump et la militante suédoise Greta Thunberg. Qui va l'emporter dans cette guerre pour sauver la planète? Comment expliquer ce phénomène? Greta n'est-elle qu'une prophète de malheur, comme le dit le président américain? Je reçois dans deux minutes le philosophe Bernard Stiegler dans ce studio. Il publie un long travail très fouillé qu'appelle-t-on Penser, la leçon de Greta Thunberg. Il me rejoint.
Votre grand journal du soir, 2 heures d'infos avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'ouverture ce matin du sommet de Davos et ce duel entre Donald Trump et Greta Thunberg. La jeune activiste qui a déclaré que notre maison était toujours en train de brûler, reprenant les mots de Jacques Chirac à Johannesburg en 2002. Alors comment expliquer le phénomène Greta? Nathalie, vous recevez le philosophe Bernard Stiegler. Il publie « Qu'appelle-t-on penser ?» ou « La leçon de Greta Thunberg » aux éditions Les Liens qui libèrent.
Bonsoir Bernard Stiegler.
Bonsoir.
Bienvenue. Penser, orthographié P-A-N-S-E-R, donc dans le sens prendre soin, je le précise pour les auditeurs qui n'auraient pas encore aperçu la une de votre livre. Greta Thunberg avec Donald Trump, invité phare de ce forum économique de Davos. En guise de préambule, effectivement, elle est allée droit au but, Greta Thunberg. Rien n'a été fait, elle l'a dit, comme ça elle a servi à l'élite politique et économique. Bernard Stiegler, elle dit vrai, rien n'a été fait en dépit des grands discours?
Malheureusement, c'est ce que pense tout le monde.
Sauf Donald Trump, mais on va y revenir.
Mais même Donald Trump pense que c'est très bien. Il n'est quand même pas complètement idiot. Il n'est pas très intelligent, mais il n'est pas complètement idiot. Donc il voit bien qu'effectivement, rien n'a été fait, à commencer par le fait qu'il s'y est opposé à ce que se fasse quoi que ce soit. Donc elle dit vrai. Et comme elle dit vrai, elle est entendue par plein de gens, parce que la vérité, quand même, même à l'époque de la post-vérité, ça a quand même un peu d'effet.
Alors, elle dit vrai. Concrètement, rien n'a été fait, on vous entend, et personne ne peut dire le contraire. Mais est-ce qu'il n'y a pas néanmoins cette prise de conscience de grands acteurs mondiaux, aujourd'hui, avec une action authentique, une réflexion tout au moins authentique ?
Bah, il y a beaucoup de gens inquiets, dans tous les domaines. Comme vous le savez très bien, en économie, la psychologie, c'est extrêmement important. Ça. Un patron d'entreprise ne peut pas dire que ça va mal. Même si ça va très mal, il n'a pas le droit de le dire. S'il le dit, ça ira mal pour lui. Et par ailleurs, si on commence à dire que ça ne va pas très bien, bah on fait plonger la bourse, on induit des gestes, disons, de déconsommation, etc. Donc on ne dit jamais la vérité. Et maintenant, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible parce que l'Australie
l'évidence
vient de brûler gravement. L'Amazonie est une catastrophe. Moi, j'étais à Stuttgart la semaine dernière, il faisait 13 degrés à 17h la nuit à Stuttgart. C'est absolument pas du tout normal. Et tout le monde se dit, il y a un truc qui tourne plus rond.
Mais alors justement, vous parlez des entreprises, les grands décideurs. Par exemple, citons-le, le patron du fonds BlackRock, Larry Fink. Il dit le risque climatique est devenu un risque financier. Il investit 7,5 milliards de dollars d'actifs. Est-ce que la finance ne peut pas devenir la meilleure alliée de Greta Thunberg et donc du climat?
Alors moi, ce que je dis, c'est que les entrepreneurs, d'abord, doivent devenir des alliés de Greta Thunberg. Et c'est pour ça que j'ai lancé avec des amis, une soixantaine de grandes personnalités, d'ailleurs, scientifiques, juridiques, économiques, etc., artistes aussi, une démarche auprès de l'ONU pour présenter une méthode de travail qui s'appelle le collectif Internation, où nous proposons de lancer des laboratoires de recherche, ce qu'on appelle les territoires laboratoires, pour inventer des nouveaux modèles économiques. Ouais. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'économie valorise ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, qu'est-ce que c'est ? C'est la dissipation de l'énergie qui est irréversible et que ça produit la toxicité. Il faut changer la macroéconomie, donc les modèles de comptabilité. Aujourd'hui, je travaille avec la Société Générale, la Caisse des dépôts et consignations.
Donc ça y est, si je vous écoute, en tout cas, ça veut dire qu'on y est presque. Il y a le mouvement de plaque tectonique qui s'est peut-être enclenché dans les entreprises. Si on parle de risque financier, on se dit que le risque climatique devient un risque financier, donc... Par exemple, Donald Trump, le climato-sceptique, ça va peut-être l'entendre, va entendre cette urgence.
Alors, ce qu'il faut, c'est produire une méthodologie et une analyse qui n'existe pas aujourd'hui.
Ça, on n'y est pas encore, alors.
Ce travail-là, il y a des gens qui s'y sont consacrés depuis très longtemps. En 1971, un économiste qui était aussi l'assistant de Joseph Schumpeter, qui est très connu dans le monde de l'économie du capitalisme consumériste, disait déjà qu'il fallait changer les modèles, en particulier qui viennent de la physique. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire. C'est extrêmement urgent. Le GIEC disait il y a un an, il y a plus que 8 ans, donc ça veut dire qu'il y a plus que 7 ans maintenant. Et Greta Thunberg, comme vous le savez, et Antonio Guterres ont fait cause commune à New York, devant les Nations Unies. Je pense que
isolé d'une certaine manière.
Il suffit pas de vouloir et de, il faut se mettre à travailler. Et ce travail, il suppose un travail conceptuel très 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 important pour lequel il faut investir beaucoup de moyens, d'argent, en impliquant les habitants.
En impliquant les habitants, les entreprises et donc
et les territoires.
Bon, sans surprise, la passe d'armes, elle a eu lieu entre Donald Trump et Greta Thunberg, pas en direct bien entendu, mais le président américain a dénoncé, je cite, les prédictions d'apocalypse de certains. C'est de la provocation ?
Oh bah, il joue son jeu personnel habituel, c'est du Trump tout craché.
Mais est-ce qu'il ne cherche pas
à convaincre les gens de Davos, il sait très bien qu'en fait il ne les convaincra pas, parce qu'il sait très bien que les gens qui viennent à Davos ne sont pas des imbéciles et qui sont très bien informés.
Mais est-ce qu'il n'est pas un peu dans le vrai d'une certaine manière ? J'entends par là qu'il y a toujours eu des fluctuations de température sur la Terre, que ce soit en augmentation ou en baisse de degrés. Il y a quand même des climato-sceptiques, des chercheurs, des scientifiques qui le disent aujourd'hui, ces arguments aujourd'hui.
Ils sont epsilonesques. Moi je fréquente beaucoup le monde scientifique, il y a très 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 peu de scientifiques. En tout cas, personnellement, j'en connais aucun qui soit climato-sceptique. Je connais des gens qui sont des farfelus, genre Laurent Alexandre, mais c'est pas un scientifique. Lui, c'est un businessman qui cherche à faire du business transhumaniste. Et ça, c'est
la mini-période glaciaire qui pourrait toucher la Terre à partir de 2030,
Vous voyez, moi, je travaille avec des archéologues. Donc, par exemple, Jean-Paul Demoule, qui est un spécialiste de ces questions. Il y a des variations dans le climat, bien entendu, au cours de l'histoire de la biosphère. Mais cette accélération telle qu'elle se produit aujourd'hui, avec une vitesse foudroyante, ça n'a jamais existé. Et dans tous les cas, il y a 95% de la communauté scientifique qui s'accorde sur ce fait.
Bernard Stiegler, l'absence d'Emmanuel Macron, comment la notez-vous ? Il était là à répéter cette phrase qui a fait le tour du monde fin 2017, après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, « Make our planet great again ». Est-ce que vous déplorez son absence, là, à Davos ?
Je ne sais pas. Ce que je voudrais, c'est que, justement, il y a eu, aujourd'hui, il y a eu une discussion avec Mme Poirson,
Brune Poirson,
qui est secrétaire d'État, aux questions environnementales, sur le recyclage, les cycles courts, etc.
Il y a eu des annonces.
Bon, moi, je trouve ça, ce sont des mesures intéressantes, je pense que... Mais le problème, c'est qu'il faut une vision d'ensemble. Si vous prenez petit bout par petit bout, ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut avoir une approche intégrée. C'est pour ça. D'ailleurs, j'ai rencontré Emmanuel Macron il y a 3 ans.
Et vous y croyez
lorsqu'il était ministre de l'Industrie et de l'Économie. Avec Patrick Boisrozek, nous avions lancé un territoire laboratoire en Seine-Saint-Denis qui fonctionne. Et nous disions qu'il faut avoir une approche intégrée, pas petit bout par petit bout. Donc je pense que ce gouvernement fait toutes sortes de choses, mais le problème c'est que c'est la macroéconomie qu'il faut repenser. Et cette macroéconomie, c'est une question de comptabilité bancaire. Donc c'est une question très précise et on n'arrive pas... J'ai des contacts moi, avec des inspecteurs des finances qui me disent c'est formidable ce que vous faites, mais il faudrait arriver à convaincre le gouvernement.
Merci beaucoup Bernard Stiegler d'être venu nous en dire plus et nous éclairer ce soir. Qu'appelle-t-on penser ? PANSER, la leçon de Greta Thunberg aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci beaucoup.
Europe 1.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec à suivre Nathalie Lévy.
Le rappel des titres, Sébastien Krebs, le débat des grandes voix. Au programme ce soir, il y a aussi Donald Trump, le procès en destitution, l'impeachment. Et puis on retournera évidemment voir ce qui se passe du côté des grèves avec les conséquences, notamment que cela augure.
Et vous pouvez bien sûr interpeller les grandes voix et leur poser toutes vos questions en direct. Ça se passe au 39-21, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Les Pyrénées-Orientales en alerte, vent violent, forte pluie et vagues impressionnantes sur le littoral. La tempête Gloria va sévir dans les heures qui viennent, elle a déjà fait 3 morts côté espagnol. Une farce, une chasse aux sorcières, Donald Trump dénonce à distance. Depuis Davos en Suisse, son procès en destitution qui s'ouvre ce soir devant le Sénat américain. Nous sommes sur place à Washington dès le début du journal de 19h. La France envisage de suspendre le prélèvement de sa taxe GAFA qui frappe les géants du numérique et cela après un accord avec les États-Unis qui retirent leurs menaces de représailles. Les négociations vont se poursuivre. Airbus va installer à Toulouse une nouvelle ligne d'assemblage pour son Airbus A321. Cet avion monocouloir qui connaît un très gros succès commercial. Il sera fabriqué en lieu et place de l'A380 dont la production s'arrête en 2021. Le nombre de demandes d'asile déposées en France continue d'augmenter, plus 7,3% en 2019. Chiffre du ministère de l'Intérieur. Les reconduites à la frontière d'étrangers sans papier bondissent de 19%. Le football, première demi-finale ce soir de la Coupe de la Ligue. Lyon face à Lille, c'est à 21h10.
Et Sébastien, vous revenez à 19h. Anissa, sur le temps, la prudence est de mise dans le sud-ouest.
Oui, effectivement, parce que ce sont les prochaines heures qui vont être les plus compliquées. Dans les Pyrénées-Orientales, le département a été placé en vigilance orange. On attend de très fortes pluies cette nuit. Il faut savoir que sur l'ensemble de cette tempête Gloria, on attend l'équivalent de 3 mois de pluie en quelques jours dans le sud-ouest. Alors actuellement, sur nos écrans, il pleut de manière assez soutenue à Argelès-sur-Mer. Il pleut à Perpignan. La pluie arrive à Béziers, il pleut au Barcarès et il pleut du côté de Limoux. Donc prudence parce que ces pluies elles vont s'intensifier dans la nuit. Et puis il neige également en montagne. La limite pluie-neige remonte ce soir à hauteur de 1400-1500 mètres. Et puis il va y avoir un redoux dans les prochains jours avec le redoux mardi soir. La fonte des neiges contribuera à augmenter le débit des cours d'eau. Donc voilà, on attend pas mal d'inondations aussi dans ce secteur. Partout ailleurs, pour demain, c'est une très belle journée d'été, d'hiver, c'est-à-dire un ciel bleu, du soleil et des températures fraîches.
Europe 1.
C'est l'heure du débat des grandes voix sur Europe 1 dans votre grand journal du soir jusqu'à 19h avec autour de vous ce soir Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Marie-Ève Malouine.
Bonsoir les grandes voix, c'est presque l'été, nous dit Anissa.
Bonsoir.
Alors, ça nous donne le sourire, bienvenue à vous. On se retrouve bien entendu pour aborder dans quelques instants le procès historique en destitution de Donald Trump. Je dis historique mais évidemment avec un peu d'ironie parce qu'on sait bien qu'il n'y aura rien à l'issue. Et puis regardons quand même de près ces violences depuis quelques jours et encore ce matin, des actions quotidiennes des militants, entre autres de la CGT par exemple, aujourd'hui qui revendiquait une grosse coupure de courant à Orly, Rungis, c'était aux Aurores, plusieurs communes touchées, Enedis a l'intention de porter plainte, le Premier ministre l'a dit, il demandera des sanctions. Écoutons l'ancien président Nicolas Sarkozy, il prenait lui la parole hier soir en remontant Romorantin lors des vœux du numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier.
J'ai vu deux hommes qui défendront demain des politiques différentes mais qui savent donner une réalité à l'idée de la République, là où d'autres l'abîment en essayant d'allumer partout des feux de la haine et de la discorde. Je ne peux pas accepter ce spectacle-là, parce qu'il abaisse notre pays. Et moi, je n'aime qu'une chose, c'est ce qui valorise la France. Et ces scènes de violence, elles abaissent la France.
Ces violences, elles abaissent la France. Sauf qu'il y a eu les gilets jaunes avant. Si on ne casse pas, on n'obtient rien. C'est ça qu'on doit comprendre dans les actions de la CGT ou d'autres aujourd'hui.
Ce qu'on comprend surtout, c'est que beaucoup de gens pensaient, avec un certain soulagement, bon, c'est fini, la grève est finie. Au fond, le gouvernement, quelque part, aura gagné. Il pourra faire passer son projet à l'Assemblée. Bon. Et puis, c'est pas du tout. On s'aperçoit que c'est, et là, vraiment, que c'est pas du tout la fin, mais que c'est l'escalade. On a eu aujourd'hui véritablement une double escalade. Escalade du côté de la CGT et des éléments les plus radicaux de la CGT et qui, à la différence, c'est qu'au début, ils ont fait quelques coupures, mais bon, en gros, ils les condamnaient pas, mais ils les assumaient pas. Mais là, on entend les plus importants responsables, par exemple la Fédération de l'énergie et des mines, qui disent, on assume, on ira jusqu'au bout et on va encore monter d'un cran. Ça, c'est d'un côté, donc escalade de la CGT et de ceux qui s'y retrouvent. Et de l'autre côté, on a à l'Assemblée nationale le Premier ministre qui, lui, se fait, alors et c'est une forme qui durcit le ton et se fait le défenseur de l'ordre. On a la loi et l'ordre d'un côté, il demande des sanctions contre ceux qui font des actes comme nuisibles, qui mettent en péril éventuellement les gens à travers les coupures, etc. Donc cette double escalade, à mon avis, elle n'est pas finie et elle est dangereuse. Et puis, si vous voulez, tout à l'heure, quand mes amis auront parlé, je vous donnerai, à mon sens, de l'interprétation de ça.
Alors, Charles Villeneuve, votre interprétation, parce qu'on voit, on est dans l'enlisement, le début de l'enlisement, probablement.
Moi, je crois qu'on vit ce que les amateurs de vélo appellent un faux plat. C'est-à-dire un calme apparent qui est brisé d'escarmouches, d'actions violentes. Et les occasions de ces actions violentes sont assez nombreuses, au fond. Le Parlement n'a pas encore examiné le texte, le financement n'est pas bouclé, qu'est-ce que va donner la conférence sur le financement, l'avenir des différents régimes n'est pas encore précisé. Il reste donc plusieurs chapitres à boucler et ce sera chaque fois la possibilité de voir surgir justement ce type d'action dite violente. Bon, il y a les coupures sauvages, on l'a vu hier, encore
ce matin,
etc. Donc, si vous voulez, les instants électrique ou décisif, c'est selon, par rapport notamment à trois syndicats au moins qui veulent le retrait total et qui ne l'ont pas obtenu parce qu'ils ont eux aussi, notamment les dirigeants, ces syndicats CGT, FO et Solidaires, des problèmes avec leur base et souvent dépassés par leur base qui sont tout à fait décidés à poursuivre. Donc on vit ce faux plat qui sera ponctué d'action incisive, à mon avis.
Mais ça s'appelle comment, Marie-Ève Malouine ? Parce qu'on a l'impression de guérilla urbaine maintenant, à chaque fois qu'on termine une mobilisation. Ça se poursuit en guérilla urbaine, avec des actions coup de poing, avec des actions très violentes et qui vont peut-être durer dans le temps.
On a toujours eu ça sur la fin d'un mouvement, quand il est difficile, que les grévistes n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient. Il y a toujours des escarmouches avec ceux qui reprennent le travail. Mais là, il y a une étape supplémentaire qui est franchie et qui ressemble à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. En tout cas, ça le rappelle parce que les Gilets jaunes, c'était un mouvement où il n'y avait pas de leader, qui n'avait pas réussi à avoir une revendication unique, qui n'avait pas de direction, mais qui avait une accusation centrée contre le pouvoir. Et maintenant, on a l'acte un peu 2 de ce mouvement des Gilets jaunes où il y a toujours pas de leader. La direction des syndicats ne peut pas être entendue, elle ne peut que suivre. Et il y a une revendication qui n'a pas été satisfaite, qui était le retrait de texte. Donc, ils ne savent pas trop vers où le canaliser, ce que pourrait faire une direction. Mais ça part dans un mouvement sur lequel on peut se demander s'il n'y a pas une forme d'intolérance. Parce que ce mouvement ne tolère pas les leaders et il ne tolère pas non plus la différence. On le voit avec ce qui se passe à la CFDT. Et donc, on peut se demander quelle est la part d'intolérance dans ce mouvement.
Alors, ces leaders, on va y venir dans un petit instant, parce que pourtant, ils existent. Ils existent, alors sont-ils inaudibles ? Pourquoi ne pèsent-ils pas sur leur base ? On s'en parle dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours, jusqu'à 20h sur Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous pour débattre ce soir. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Marie-Ève Malouine, Nathalie Lévy.
Et au fond, la bataille contre la réforme des retraites, elle se poursuit non plus sur les rails, mais avec des actions violentes, des intrusions, des coupures de courant. On en parle avec vous, les grandes voix dans ce studio. On parlait de, à la fois de des leaders CGT, CFDT qui semblent inaudibles aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à tenir leur base. Peut-être une réflexion là-dessus, vous tous. Et puis effectivement, je parlais d'une forme de guérilla. C'est comme ça que ça se transforme. En tout cas, on se pose la question avec
guérilla
ces actions.
Urbaine.
Guérilla urbaine, Charles
Villeneuve.
C'est
le terme précis. Et d'ailleurs, ça a intrigué pas mal de professeurs du Centre des hautes études militaires, notamment le colonel Michel Goya, qui planche beaucoup là-dessus. Et qui a fait toute une étude, une analyse sur la guérilla urbaine et qui a remarqué notamment durant la guerre d'Espagne la manière dont un certain nombre d'officiers républicains n'étaient pas obéis parce qu'ils n'allaient pas assez loin et comment la troupe elle-même avait lancé un système de guérilla urbaine de manière sporadique. C'est-à-dire que ce n'est pas en continu, mais c'est très ciblé et on intervient pour essayer de relancer la machine pour relancer aussi les chefs qui sont obligés de suivre. Et on est dans ce schéma et dans ce système.
Oui. La question, Gérard...
Et pour une raison, oui. Moi, je crois que pour une raison, on a ce climat. Et j'ai trouvé
une raison, Emmanuel Macron ?
Non. Au-delà, si vous voulez.
Mais on va y venir.
Bien sûr qu'il y est. Mais au-delà, je veux dire, par là, je crois que l'expression de Sarkozy est assez bonne, les feux de la haine. Les violences, les feux de la haine... ont droit de cité dans notre système politique. Pourquoi ? Parce que ce système politique qui existait, que nous avons connu, nous, comme journalistes, depuis 40 ans, était un système de bipolarisation, un système binaire où il y avait la gauche et la droite, en gros. Et quand il y avait, effectivement, des insatisfactions, etc., on se disait, de toute façon, on gagnera le prochain coup. Il y avait un exutoire. Aujourd'hui, l'éclatement avec l'élection de Macron du système politique, avec toutes ces familles qui ne savent d'ailleurs pas très bien où elles en sont, ça permet l'implantation, effectivement, de cette violence. La violence, aujourd'hui, n'est plus un tabou dans la société politique.
Alors, deux questions, Marie-Ève Malouine, et je voudrais qu'on aille aux États-Unis pour regarder ce début de procès d'impeachment pour Donald Trump. Deux questions. Est-ce que la France connaît un climat de violence plus important depuis l'élection d'Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est, en gros, sa responsabilité, là, cette poursuite de crise ? Et c'est ce que je vous disais juste avant la pause. Où sont les leaders de la CGT ? Où sont-ils ? Est-ce qu'ils sont inaudibles ? Pourquoi la base ne les écoute pas ?
La CGT, les leaders sont inaudibles parce que c'est encore le phénomène qu'il y a eu avec les Gilets jaunes, parce que on a le pouvoir nous-mêmes. Et la CGT n'était pas dans les Gilets jaunes. Elle essaie de recoller au mouvement. Donc là, sa base, en fait, elle court derrière, elle ne la dirige pas du tout. Donc ce n'est pas sa base dans cette mesure-là. Et puis sur la violence, c'est vrai que volontairement ou pas, le quinquennat d'Emmanuel Macron a donné le sentiment que la violence permettait d'obtenir des choses. Il y a eu ça pour les Gilets jaunes, mais avant ça, il y a eu Notre-Dame-des-Landes qui rejoint ce phénomène de guérilla dans la formation de ces jeunes, souvent, mais qui font partie de cette mouvance politique, qui s'entraînaient. C'était devenu un centre d'entraînement, Notre-Dame-des-Landes, à cette forme d'action politique. Et Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un référendum, il y a eu la voie politique traditionnelle qui a dit non, l'aéroport doit être construit, mais en fait... Ça a été contredit parce que le gouvernement a dit non, finalement, on ne le fait pas par crainte des violences de cette guérilla organisée sur place.
Vous remarquerez d'ailleurs, Nathalie, que aussi bien Notre-Dame-des-Landes que les Gilets jaunes, il n'y avait pas de leader.
Non, c'est le refus des leaders, justement.
Exactement. C'est le basisme.
On va filer aux États-Unis, si vous le voulez bien. On va regarder ce qui se passe du côté du procès en destitution, procès historique en destitution de Donald Trump. Enfin, en tout cas, historique sur le papier, hein, parce qu'on sait bien, il ne se passera rien tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours, jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Et ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Marie-Ève Malouine.
Et les grandes voix, on va se diriger aux États-Unis parce qu'il y a ce procès en destitution de Donald Trump qui a démarré, l'actuel président, qui deviendra le troisième président américain faisant l'objet de ce type de procédure. Mais il est absent. Il est absent, il est à Davos, en Suisse. Hein, on l'a entendu en face de Greta Thunberg. Bon, bah alors, c'est un coup pour rien.
Ben non, il fait campagne à Davos. À Davos, il a fait une formidable campagne cet après-midi, ou ce matin, je ne sais plus, avec le décalage horaire. Il était le Trump sûr de lui et dominateur, qui s'en prend à prophète de malheur et à leurs prédictions d'apocalypse, etc. Bien évidemment, la petite Greta. Mais au-delà de ça, Trump, il arrive là et il rappelle ses trophées. Alors d'abord, il traite les démocrates il appelle ça la chasse aux sorcières, oui. Le procès qui lui est fait au Congrès. Et puis il sort ses trophées, Baghdadi, la tête de Baghdadi d'un côté, la tête du général Soleimani de l'autre, ses résultats économiques, et puis l'accord chinois qui vient d'intervenir. Donc il joue la fin de l'année face à ceux qui jouent la fin du monde.
On a l'impression que c'est un boulevard Charles Villeneuve pour Donald Trump. C'est-à-dire qu'en dépit des épreuves, même les plus improbables, il ne sombre jamais. On le sait très bien. De toute façon, ses avocats ont appelé à l'acquitter immédiatement et ce sera le cas parce qu'on le sait, de toute façon, le Sénat est républicain, donc il n'y a aucun danger. Bon, voilà, il déroule.
Écoutez, il n'en reste que le contraste est étonnant quand même parce que justement, il a profité sur son bilan économique qui est réel, qui est fait d'un mélange de protection de produits américains et de fiscalité douce, c'est-à-dire de baisse des impôts. Et puis, il a la puissance du dollar qui est la monnaie monde. Et puis, évidemment, un marché considérable de 300 millions d'habitants.
350.
Et il n'y a jamais eu autant de création d'emplois, il faut le reconnaître. Donc, évidemment, il est là pour vanter son
bilan. Mais
quand je dis le contraste est étonnant, avec toutes les controverses dont il est l'objet, c'est-à-dire l'enquête russe, l'enquête ukrainienne, plus la floraison de tweets quand même assez étrange, étonnant, à l'emporte-pièce, etc., qui rend ahuri, si vous voulez, notamment l'Europe, tous les leaders politiques européens et la presse européenne. Sauf que la presse européenne, il ne faut jamais oublier qu'elle le prend pour un bouffon, comme elle avait pris pour un bouffon, ou en tout cas Boris Johnson, et on a vu les résultats. Donc, il est resté et reste étonnamment stable. Oui. C'est-à-dire, ceux qui ne l'aiment pas, eh ben, on les connaît. Et ceux qui l'apprécient, on les connaît aussi.
Et finalement, d'une certaine manière, confortés.
Les sondages restent les mêmes.
Il est à 45%, je rappelle simplement. Il est à 45%. Beaucoup de chefs d'État européens, autres que lui, aimeraient partir en campagne avec 45%
bien sûr.
10 mois avant l'élection.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, le 3 novembre prochain, à l'élection, lui, il s'est mis en ordre de bataille. On a pensé la faire plier, mais on s'est trompé, a priori. En tout cas, avec l'économie, le chômage au plus bas, Wall Street au plus haut, etc. Bon, bah l'hypothèse de sa réélection, elle prend de plus en plus de consistance. Mais
depuis le début, Donald Trump, il joue son électorat. Il a un électorat et il fait tout ce qu'il faut pour le garder, pour le conserver. Et malgré toutes les affaires, à chaque fois, dans les sondages, son électorat tient. Donc il est là pour... il cherche à le conforter. Et cette procédure d'impeachment...
Elle n'aura pas d'impact sur la campagne, alors ?
Non.
Parce qu'elle aboutira
et
pas,
en plus, elle va conforter son électorat. Il essaie même d'en grappiller un petit peu plus. En jouant, vous avez vu, ces démocrates, ce sont des incompétents. Ouais. Ils ont que ça à faire. C'est de la chasse aux sorcières. Et ils n'ont rien à proposer. Ils ne font rien, c'est ce qu'il dit. Et donc, ça crée un réflexe un petit peu par rapport à son électorat. Et donc, ça ne changera rien. Mais les démocrates jouent aussi par rapport à leur opinion, qui est de dire, vous ne pouvez pas le laisser réélire.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que les lignes bougent, finalement ? Il faudrait quoi ? De nouvelles révélations ? De nouveaux témoignages accablants ? On a l'impression que
ça
rien ne peut suffire, effectivement.
C'est les gens qui ne votent pas, qui se mobilisent, ils cherchent à mobiliser les gens qui ne vont pas voter. C'est vrai que la participation n'est pas importante aux États-Unis.
Il ne faut pas oublier, là je parle de quelque chose qu'on a vécu, aussi bien Gérard plus que moi, puisque Gérard est un vrai spécialiste de la vie quotidienne américaine. Il y passe un certain temps, il a des enfants qui sont là-bas aussi, qui sont des journalistes, etc. Et donc, si vous voulez, entre le Watergate, qui était un problème de politique intérieure, qui touchait à la liberté de la presse, qui est fondamentale aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe, beaucoup plus qu'en France, en tout cas. Et évidemment, aujourd'hui, l'enquête russe, l'enquête ukrainienne qui relève de la politique étrangère, et notamment, évidemment, si vous voulez, ce qui est discutable sur le plan de la diplomatie, c'est-à-dire l'assassinat d'un numéro 2 d'un régime par un chef d'État, mais on sous-estime le traumatisme considérable de ce que les Américains ont vécu en 1979 avec les gens de Khomeini qui ont pris en otage toute l'ambassade américaine et qui est resté dans la mémoire. Moi, j'ai vécu toute la guerre civile libanaise avec les Marines qui étaient là, avec l'attentat du 23 octobre 1983, etc. le souvenir de ce fait est terrible chez les Américains.
D'ailleurs, Donald Trump s'en sert, il désigne 52 sites. C'est le nombre des otages à l'ambassade américaine. Exactement. Ça veut bien dire qu'il est toujours dans cette revanche-là.
La presse française et la presse européenne, mais surtout la presse française, comme dans le début, est toujours en train de se mettre le doigt dans l'œil concernant les États-Unis. Parce que les gens vont passer 3 jours à New York, ils voient des démocrates, ils voient des gens cultivés, intelligents, et ils disent « les Américains pensent que ». Ben les Américains, ils ne sont pas comme ça.
Mais alors, dis-moi, Gérard, puisque vous faites des allers-retours, vous sentez les choses, qu'est-ce qu'on dit, parce qu'il y a le casse-tête démocrate en face, plus encore,
Joe Biden. Regardez le piège. On commence tout à l'heure, à la fin de notre émission à nous, ils commencent les auditions au Sénat. Oui. Et il y a deux otages, deux sénateurs qui sont tous les deux candidats à être président des États-Unis, et d'abord à avoir l'investiture démocrate, qui ne vont pas pouvoir bouger le petit doigt pendant 3 semaines parce qu'ils sont tenus, la loi d'assister à toutes les auditions, etc. Mmh. Et c'est les deux, sont Sanders d'un côté et Elizabeth Warren de l'autre, qui sont parmi les deux possible candidat démocrate. Donc, il les a ligotés quelque part. Et au fond, l'impeachment va se retourner en sa faveur et pas. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait senti Nancy Pelosi. Elle ne voulait pas d'une procédure d'impeachment parce qu'elle sentait
Procédure en destitution, je rappelle la traduction, contre Donald Trump, qui, selon les grands voix, ne peut pas être un handicap pour sa réélection. Voilà ce que vous nous dites, entre autres, ce soir. Merci à vous, les grands voix.
On peut se tromper.
Mais bien sûr. Dis-moi encore.
Votre grand journal du soir se poursuit avec la suite du programme, Nathalie Lévy.
Le journal de Sébastien Rapp dans un instant, et puis l'impeachment, justement, on y retourne. Nous serons d'ailleurs en direct avec nos équipes depuis les États-Unis.
Toute l'info qu'il vous faut, c'est votre grand journal du soir, et c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe. À suivre dans la prochaine heure, Nathalie Lévy.
On reste ensemble, évidemment, la politique à 19h10 et puis à 19h30. Cette question, comment survivre aux blues de l'hiver? Vous posez des questions à vous aussi. Ben nous, on vous apporte les réponses sur Europe 1. Alors restez avec nous. Comment retrouver notre énergie, notre vitalité? On vous donne toutes les clés avec nos invités. Tous les secrets là qu'il faut pour tenir jusqu'au printemps. C'est puis à 19h45, c'est Sinoche avec Mathieu Chaille.
Et si vous aussi, vous avez des astuces pour garder la pêche pendant l'hiver, venez nous le dire au 39-21. Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, Sébastien Krebs. Il est 19h.
Nous sommes ici pour rencontrer les leaders mondiaux. Le reste n'est qu'une farce, une chasse aux sorcières qui dure depuis des années. C'est honteux.
Donald Trump à Davos pendant que son procès en destitution débute ce soir devant le Sénat américain. Nous sommes sur place à Washington.
Un risque d'inondation et de submersion. La tempête Gloria menace les Pyrénées-Orientales.
Dans ce journal également, le nombre de greffes d'organes en hausse. Et puis, quand les filles doivent laisser le terrain de foot aux garçons, les joueuses d'un club amateur ont dû interrompre un match à Laval pour laisser la place aux hommes. Pas du plus bel effet.
Et la tendance météo d'Anissa.
Avec une situation toujours très compliquée dans le sud-ouest et notamment sur les Pyrénées-Orientales placées en vigilance orange, la tempête Gloria va frapper encore cette nuit le département. Partout ailleurs, c'est plutôt calme. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Donald Trump parle d'une farce, d'une chasse aux sorcières, mais c'est bien une page historique qui est en train de s'écrire à Washington. Le troisième procès pour impeachment jamais organisé aux États-Unis après ceux d'Andrew Johnson et de Bill Clinton. Il s'ouvre en ce moment même devant le Sénat. Historique, Xavier Yvon, vous êtes sur place, même si on connaît déjà le résultat.
Oui, en ce moment même, un coup de marteau sonne le début de cette grande pièce de théâtre qui devrait durer au moins 2 semaines. Le décor, c'est le Sénat où je me trouve, transformé en tribunal. Et la fin, vous l'avez dit, on la connaît déjà, Donald Trump sera acquitté. Il faut bien comprendre que même si on parle de procès, c'est avant tout un processus politique. Les sénateurs, certes, jouent le rôle de jurés, mais plus de la moitié d'entre eux sont déjà acquis au président. Et c'est leur patron, Mitch McConnell, qui propose les règles. Il le fait main dans la main avec la Maison-Blanche, donc avec l'accusé. Mitch McConnell veut par exemple imposer des horaires marathon, jusqu'à 12 heures d'audience par jour. Croisé dans un couloir du Capitole tout à l'heure, le sénateur démocrate Dick Durbin dénonce une tentative de dissimulation.
C'est très clair, ils ne veulent pas que les faits soient présentés au peuple américain. Quand vous organisez des sessions après minuit, on peut soupçonner que c'est pour que personne ne fasse attention.
C'est la première bataille que vont se livrer démocrates et républicains dans les heures qui viennent, débattre des règles pour le procès. Le seul suspense qui reste, c'est de savoir si des témoins seront appelés à comparaître. Si oui, il y aura plus de spectacles, mais la fin, elle, sera toujours la même.
Xavier Yvon en direct de Washington pour Europe 1.
Donald Trump qui est très loin, à Davos, en Suisse, hein, pour le Forum économique mondial et qui a attaqué aujourd'hui les défenseurs du climat.
Il a fustigé, je cite, les prophètes de malheur dans son discours devant les grands patrons et face à la militante suédoise Greta Thunberg qui venait d'adresser un nouveau rappel à l'ordre.
Autre annonce en marge de Davos, la France envisage de suspendre sa taxe visant les GAFA. Ce sont les géants du numérique. Hein.
Un accord a été trouvé avec les États-Unis qui retirent leur menace de représailles. Les négociations vont se poursuivre.
En direction les Pyrénées-Orientales maintenant, où la tempête Gloria, déjà meurtrière en Espagne, va sévir dans les heures prochaines.
Et on attend beaucoup de pluie avec des risques d'inondations, de très forts risques d'avalanches aussi en montagne, des vents violents, des vagues impressionnantes sur le littoral, risque de submersion comme à Argelès-sur-Mer où des habitants ont dû être évacués. C'est le cas de Vincent, rencontré par Benjamin Péter.
Je suis venu voir ma maison dans l'état où elle était et prendre des photos pour des voisins qui n'ont pas pu venir. Ma maison en craie, elle est en première ligne, comme toutes les maisons de première ligne. Hein, Depuis hier, ça ne s'est pas aggravé, mais cette nuit, ça risque, ils ont annoncé le gros cette nuit, ça risque de monter. Parce que tout le sable qui a été mis devant, fait un peu comme une avenue à la mer pour monter sur les maisons. Voilà. Un tremplin, voilà. Mais il n'y a rien à faire, il faut attendre là maintenant. On a calfeutré tout, on a tout bloqué, puis bon, il faut
Vous
attendre.
Vous avez surélevé aussi les meubles et tout ?
Oui, on a tout surélevé, on attend la fin de l'événement. Voilà. Je reviendrai demain pour voir comment ça a évolué.
Un habitant d'Argelès-sur-Mer, le département des Pyrénées-Orientales, qui a été placé en alerte orange jusqu'à jeudi matin.
Les actions coup de poing continuent et le Premier ministre, Édouard Philippe, a appelé à des sanctions aujourd'hui.
Et c'était devant l'Assemblée tout à l'heure, après une nouvelle coupure de courant ce matin revendiquée par la CGT Énergie. Ça s'est passé autour d'Orly et de Rungis. Enedis va porter plainte. C'est la suite de l'attentat de la préfecture de police de Paris. On apprend ce soir que 16 personnes ont été écartées des services de renseignement pour radicalisation. Et cela sur les 5 dernières années, fait savoir Matignon.
Le don d'organes sauve des vies et le nombre de greffes repart à la hausse. Il a progressé en 2019, annonce l'agence de la biomédecine Jean-Jacques Herry.
Oui, au total, ce sont 5897 organes qui ont été transplantés l'année dernière en France. C'est 92 de plus qu'en 2018 et ça correspond à une hausse de 1,6%. Voilà pour la bonne nouvelle. Mais derrière ces chiffres globaux, il y a un motif d'inquiétude. Si l'on s'intéresse aux greffes de reins, et plus précisément aux reins prélevés sur des donneurs vivants, c'est-à-dire qui n'ont pas eu d'accident ou d'arrêt cardiaque au moment du don, le cas le plus typique, c'est lorsqu'une personne offre son rein à un membre de sa famille. Eh bien, pour la deuxième année consécutive, les greffes de ce type sont moins nombreuses, déplore le professeur Olivier Bastien, directeur du prélèvement et de greffe à l'Agence de la biomédecine. Il pointe deux problèmes.
Probablement une information qui n'est pas encore suffisante et pas assez précoce, c'est-à-dire elle doit être faite très en amont dans le parcours de soins du patient. Au moment où on lui annonce son insuffisance rénale, on doit pouvoir lui annoncer qu'il peut y avoir une greffe donneur vivant. Le deuxième frein, c'est un certain nombre de patients qui disent « je ne veux pas faire prendre ce risque à un de mes proches ».
Pour changer les choses, une des priorités est donc d'améliorer le suivi des donneurs vivants.
Jean-Jacques Herry. Au Sénat, la loi bioéthique entame son deuxième round de débat avec notamment l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes.
On termine avec cette histoire qui n'est pas du plus bel effet quand les filles doivent laisser le terrain de foot aux garçons.
Oui, c'est un match de foot féminin amateur qui a été interrompu à la mi-temps pour laisser jouer un match masculin. Ça s'est passé à Laval dimanche. Bonsoir Justin Morin.
Bonsoir.
Alors évidemment, ça fait des ordres au moment où on promet le sport féminin et après une Coupe du Monde féminine organisée en France.
Mais oui, c'est aussi le sentiment de justement l'équipe féminine de SPE qui a fait une heure de déplacement depuis la Sarthe jusqu'à Laval dimanche. Pour rien. Ces footballeuses devaient affronter la formation féminine de Bourny-Laval. On est en district, le match est prévu à 12h30, 0-0 à la mi-temps. Sauf que juste après, sur le même terrain, les garçons catégorie 19 ans du stade Lavallois doivent affronter l'En Avant Guingamp, championnat de niveau national. Le règlement impose au moins une heure d'échauffement avant le coup d'envoi et surtout donne la priorité au plus haut niveau. Or, le match a été planifié un poil trop tôt, par erreur, à 14h30. À ce moment-là, le délégué de la Ligue ne fait pas preuve d'une grande clairvoyance. Il prend la décision d'interrompre le match féminin pour que les jeunes puissent s'échauffer et jouer comme prévu à 14h30. Pile, aucune négociation possible, raconte le coach de SPE, Philippe Gagneux.
Les filles, elles étaient un petit peu vexées parce que c'est la priorité aux gars. Je leur ai expliqué, c'est pas tout à fait ça, puisque c'est parce que c'est du national, c'est pour ça. Après, il n'y a pas de souplesse. Merde, même si c'est du national, je veux dire, ils peuvent s'échauffer le long du terrain. C'est pas la fin du monde, du national. Mais bon, on va revenir, c'est tout. Hein.
Et le stade Lavallois s'est excusé pour la mauvaise organisation à mettre au crédit de la mairie. Mais trop tard, le mal est fait.
Justin Morin, merci. Ce soir, c'est très sérieux. Ce sera 21h10, pile le coup d'envoi de la première demi-finale de la Coupe de la Ligue. Lyon-Lille, c'est des garçons.
Oui, évidemment. Voilà, ça perdure quand même, certaines inégalités. Hein. Elles ont de la durée. Sébastien Krebs, vous revenez à 19h30 avec de nouvelles infos. Anissa, du côté du temps, la tempête Gloria va frapper ce soir.
Oui, encore ce soir, effectivement. C'est vrai qu'il y a eu quand même un calme cet après-midi. Il a plu dans le sud-ouest, mais ça s'est calmé. Et bien là, ça repart de plus belle ce soir et surtout cette nuit où on attend de très fortes précipitations dans le sud-ouest, sur le Roussillon, les Pyrénées-Orientales, avec donc de fortes pluies, des pluies très soutenues et puis de la neige qui va tomber à partir de 1600 mètres d'altitude. Alors demain matin, ça sera encore très agité avec des pluies, même parfois orageuse. Et puis dans l'après-midi, cet épisode méditerranéen va se calmer sur l'Occitanie. Mais attention, sur le massif central, jusque même le delta du Rhône, là, des petites pluies locales sont encore à attendre. Sur les Cévennes, il neige à 1000 mètres d'altitude. Et puis attention, surtout en bord de mer, avec des vagues très fortes et un risque de vagues submersion, donc sur les Pyrénées-Orientales. Partout ailleurs, demain, c'est une journée d'hiver parfaite, c'est-à-dire un ciel bleu, du grand et beau soleil et des températures très fraîches. Moins 5 à 10 degrés demain matin, 5 à 18 l'après-midi.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Avec vous, Aurélie Herbemont, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Et l'interview politique avec votre invité ce soir,
Stéphane Ravier, sénateur et candidat du Rassemblement National à Marseille. On va parler des municipales et un peu d'actualité nationale aussi.
Et votre interview politique, c'est dans un instant sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et tout de suite place à l'interview politique.
Avec vous, Aurélie Herbemont, et votre invité ce soir dans ce studio, Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National et candidat à la mairie de Marseille.
Bonsoir Stéphane Ravier.
Bonsoir.
Une partie de l'aide publique à laquelle le Rassemblement National a droit va aller directement dans les caisses du micro-parti de Jean-Marie Le Pen, 4 200 000 euros pour rembourser un prêt de la présidentielle. Est-ce que la situation financière du RN vous inquiète alors que Marine Le Pen se lance dans la présidentielle?
Sacré Christophe. Comme il ne peut pas garder l'argent.
Vous parlez de Christophe Castaner, oui. le ministre de l'Intérieur.
Oui,
Christophe, tout le monde ne va pas forcément comprendre.
C'est presque intime. Tellement il est sur notre dos. Eh bien, plutôt que de garder l'argent, puisqu'il ne le peut pas, alors il le confie le transfert à Jean-Marie Le Pen. Mais je suis sûr que Jean-Marie Le Pen saura agir dans l'intérêt du mouvement qu'il a créé.
Vous lui demandez à Jean-Marie Le Pen, parce que c'est lui qui avait réclamé à être remboursé par le Front National.
Oui, mais Jean-Marie Le Pen est un homme de combat et de conviction. Il a créé le mouvement, le Rassemblement National aujourd'hui, qui est le seul outil politique le plus performant pour redresser notre nation. Eh bien, je lui fais confiance pour qu'il ne l'oublie pas.
Pour qu'il vous redonne l'argent que vous lui aurez remboursé via l'État.
On finira par le rembourser, qu'il ne s'inquiète pas, mais je suis sûr qu'il n'est pas inquiet et qu'il aura à cœur de participer à ce combat de redressement national avec cet outil formidable qu'est le Rassemblement National.
Eh bien, le message est transmis à Jean-Marie Le Pen ce soir. Le Rassemblement National, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi les municipales qui sont un petit peu plus proches.
Oui.
Votre parti a déposé aujourd'hui un recours devant le Conseil d'État contre la circulaire Castaner. Alors je rappelle pour nos auditeurs ce qu'est la circulaire Castaner, c'est une circulaire qui prévoit d'attribuer une nuance politique aux candidats aux municipales uniquement dans les villes de plus de 9000 habitants. C'était à partir de 1000 jusqu'ici. C'est quoi le problème avec cette circulaire, Stéphane Ravier?
Sacré Christophe.
Vous allez la faire pour toutes les questions.
Double peine aujourd'hui, double peine. Ben oui, mais bon, d'habitude, les responsables politiques tripatouillent les élections avant. Vous voyez, on change le mode de scrutin, on redécoupe les circonscriptions, les cantons. Avec La République En Marche, on change de méthode, ils ne sont jamais en retard d'idées. C'est après les élections. Voilà, on sait que les résultats seront calamiteux pour La République En Marche. Alors, on essaie de le masquer. Pourquoi? Ben parce qu'ils savent très bien que La République En Marche, ça n'existe pas dans les territoires. Après tout, à force d'être en marche, eh bien, on n'est pas ancré, on n'est pas enraciné sur le territoire. Alors il faut absolument le masquer coûte que coûte, quitte à faire cet acte qui est loin d'être démocratique.
Ce n'est pas démocratique d'abaisser...
Non, bien sûr que non, ce n'est pas démocratique de considérer qu'il y a deux catégories d'électeurs. Les citoyens sont égaux.
C'était aujourd'hui jusqu'en dessous de 1000. Donc il y avait déjà, si on prend votre argument, deux catégories d'électeurs. 9000, les électeurs en dessous de communes de 1000 habitants et au-dessus.
Combien de communes va-t-on supprimer de la carte post-électorale? C'est pour masquer que La République En Marche, en réalité, est une mode. C'est une mode qui est en train de passer avec son mannequin, monsieur. Macron qui défilait, sinon sur les podiums, en tout cas sur les plateaux. Et la mode est en train de passer. Ça n'a jamais pris, ça ne s'est jamais enraciné. Alors il faut le masquer, en tout cas tenter de le faire.
Alors vous dites masquer, le En Marche c'est une mode, mais en même temps on voit que certains candidats du Rassemblement National, eux ne tiennent pas à leur étiquette. Je vais citer au hasard Louis Alliot à Perpignan, il fait campagne sans logo. Donc après tout, peut-être que la mode de l'étiquette Rassemblement National ne fonctionne pas trop non plus.
Mon ami Louis, que je salue. Écoutez, je crois que Louis Alliot a su, lui, contrairement à La République En Marche, a su s'enraciner. Et tout le monde à Perpignan connaît Louis Alliot au-delà de l'étiquette qui est la sienne et que tout le monde connaît. C'est un petit peu comme moi à Marseille. C'est personne, pas mystère de mon attachement au Rassemblement National. Mais c'est désormais une personnalité locale. Louis Alliot, il a peut-être moins besoin de cette étiquette et il rassemble bien au-delà du Rassemblement National.
Vous espérez bien qu'en tout cas, il sera comptabilisé comme un candidat du Rassemblement National.
Il le sera, ne vous inquiétez pas.
Alors Stéphane Ravier, parlons aussi des retraites, du mouvement social contre les retraites. On assiste ces derniers jours à des nouveaux modes d'action. La CGT notamment pratique les coupures d'électricité. Est-ce que vous, au Rassemblement National, qui soutenez la mobilisation contre la réforme, vous soutenez ce type d'action?
Oui, nous soutenions en tout cas, nous soutiendrons encore les mouvements légitimes de manifestation sur la voie publique, d'interpellation du gouvernement.
Mais l'électricité, les coupures d'électricité.
Moi, j'avais proposé que la grève de la gratuité, c'est-à-dire qu'après que nous ayons voté cette loi dont j'ai proposé le texte au Sénat, eh bien, un gréviste se rend sur son lieu de travail. Du coup, il n'est pas gréviste, mais pour ce qui est des transports, par exemple, eh bien, il n'y a aucun contrôle dans le train ou dans les bus, et les voyageurs voyagent gratuitement. Tout le monde est content, sauf le gouvernement.
Mais sur les coupures d'électricité.
Ce n'est pas la méthode de la CGT qui préfère désormais, j'allais dire, sombrer dans des actions violentes. Mais c'est aussi le résultat de la stratégie du gouvernement de pourrissement.
Vous les renvoyez dos à dos.
Mais le premier est quand même responsable de l'action des seconds. Mais je rappelle à la CGT qu'elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron, qu'elle avait appelé avant à voter pour François Hollande. Bon, ben, ils sont un petit peu responsables aussi de la situation.
Alors, il y a un autre mode d'action aussi. Dans une ville que vous connaissez bien, Marseille, pour ne pas la citer. Oui. Il y a une nouvelle opération de blocage du port qui commence demain jusqu'à vendredi. La Chambre de commerce estime aujourd'hui à près de 100 millions d'euros les pertes depuis décembre. Cette opération port mort, vous la soutenez ou pas ?
Je ne peux soutenir une action qui consiste à fragiliser la ville de Marseille, qui est dans un état tel que on doit se retrousser les manches pour la redresser et non pas pour l'enfoncer. 100 millions d'euros, c'est extrêmement grave. Mais là encore, nous avons affaire des jusqu'au-boutistes de la part de certains militants de la CGT. Mais face à eux, il y a un gouvernement qui ne veut rien entendre. Il faut que tout le monde se retrouve désormais autour de la table, que le gouvernement, le premier, cesse cette stratégie, en finisse avec cette stratégie de pourrissement, parce que manifestement, certains ont décidé de passer à des actions plus violentes. Et en ce qui concerne Marseille, moi, je ne peux accepter que cette ville souffre davantage.
Vous ne pouvez accepter que cette ville souffre davantage. Ville où vous êtes candidat, vous êtes deuxième dans le tout dernier sondage du mois de janvier, derrière la candidate LR Martine Vassal, qui fait face au dissident Bruno Gilles. Jean-Claude Gaudin, hier, dans ses vœux à la presse, ses derniers vœux à la presse en tant que maire de Marseille, a demandé à ces deux candidats de droite de s'unir, car le risque d'une victoire RN est énorme. Marseille est vraiment à portée de main du Rassemblement National.
La chance de la victoire du Rassemblement National à Marseille est effectivement importante et j'invite tous les Marseillais d'ailleurs à en être conscients et à se mobiliser dès le premier tour pour faire savoir qu'ils en ont marre de ce système incarné, le système Gaudin incarné par l'héritière Madame Vassal, mais aussi par Bruno Gilles. Madame Vassal, c'est le pur produit, c'est la garante d'un système qui a ruiné la ville. Elle est élue depuis 19 ans au sein de la majorité. Elle a été adjointe de Jean-Claude Gaudin. Non seulement elle est l'héritière de Jean-Claude Gaudin, mais elle veut porter elle encore le poids du macronisme, parce qu'elle veut des alliances dès le premier tour avec les représentants d'Emmanuel Macron. Et en plus, elle recrute parmi les enfants du guérinisme.
Mais vous parlez,
voyez que c'est la triple peine pour les Marseillais.
Vous dénoncez les alliances, mais un tout dernier mot. Vous, avec qui vous allez vous allier? Parce que vous êtes à 22% dans les sondages. Ça ne suffit pas pour gagner. Vous misez
23
sur quoi?
23
non plus, vous avez raison de le dire. Mais elle pourra peut-être avoir des alliés. Vous, comment vous trouvez des alliés? Parce que pour gagner, il faut peut-être... Ou alors vous misez uniquement sur des triangulaires, des quadrangulaires dans les secteurs à Marseille ?
Sincèrement, je crois être devant Madame Vassal. Les sondages sont bien en deçà de la réalité. Et je m'adresse, moi, au peuple marseillais, à tous les Marseillais, en leur disant, cette fois, c'est une chance historique. Vous avez la possibilité de tourner la page, de fermer l'encyclopédie Godin avec ses représentants, l'ensemble, d'ailleurs, de mes adversaires, avec un rassemblement qui rassemble les Marseillais et avec des propositions qui sont faites par des Marseillais pour des Marseillais.
Merci beaucoup. Merci. Stéphane Ravier d'avoir été mon invité.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Restez avec nous dès 19h30. Cette question, vous faites comment vous pour éviter aux blouses de l'hiver, pour garder votre énergie? Pas facile, hein. Je pose la question à l'auteur du livre La clé de votre énergie, numéro 1 des ventes sur Amazon. Elle a toutes les réponses.
Et vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Et chaque jour, Europe 1 vous propose de prendre un temps d'avance et de regarder ce qui va se passer demain partout sur la planète, Nathalie Lévy.
Et on s'installe d'abord en France. Hein. Ensuite, on élargira bien entendu la fronde contre la réforme des retraites qui continue, alors que cela va nettement mieux à la SNCF ou à la RATP. La situation se tend dans les ports français et notamment dans le premier d'entre eux, Marseille. Bonsoir Nathalie Chevance.
Bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondante sur place. Que va-t-il se passer à partir de demain mercredi ?
Eh bien, d'après la CGT, toute l'activité portuaire sera de nouveau à l'arrêt pendant 3 jours. Cela concerne les dockers, les remorqueurs, la réparation navale, les agents du port qui se mettent en grève. L'objectif, c'est que rien ne rentre et rien ne sorte, ni bateaux ni marchandises, pour frapper l'économie. Déjà 100 millions d'euros de pertes rien que pour le mois de décembre. Et pour l'instant, aucune éclaircie à l'horizon. Déjà 40% d'activité en moins sur janvier. Résultat, Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille, lance un appel pour que le blocus ne soit pas total.
Oui, je lance un appel à CGT pour qu'il fasse en sorte d'être en grève sur une seule rotation, sur un seul shift, comme on dit dans le monde maritime, de façon à ce que les autres rotations de la journée de demain, de jeudi et de vendredi puissent être travaillées. Il faut vraiment tous en être conscients. On est en train de détruire de l'emploi et on est en train d'envoyer nos clients dans les autres ports, que ce soit Barcelone ou que ce soit Gênes, ou sur les ports du nord de l'Europe. J'espère vraiment sincèrement qu'ils entendront ce message. Et comme on défend l'emploi sur le territoire tous ensemble, entrepreneurs et responsables syndicaux, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas.
Mais ce soir, la CGT réplique que c'est bien une nouvelle opération port mort qui se prépare, aucune rotation, avec également un gros impact sur le secteur de la croisière. 50 000 clients de perdus en un mois et demi, avec des armateurs qui, là aussi, choisissent d'autres escales.
Et voilà ce qui se passe à Marseille avec Nathalie Chevance. Merci à vous. Demain dans le monde, avec vous Didier François. Bonsoir.
Bonsoir.
Oh là là, c'est la crainte, hein, oui. La crainte d'une épidémie de pneumonie particulièrement virulente. Elle a débuté en Chine il y a 2 semaines maintenant. Elle s'étend désormais à l'Asie avec un risque de propagation internationale. Au point, Didier, que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a décidé de convoquer une réunion d'urgence.
Oui, qui se tiendra demain à Genève. Alors d'abord pour évaluer la nature réelle du risque d'épidémie, pour coordonner la réponse médicale à l'échelle internationale, parce que c'est la seule façon d'entraver la propagation de ce virus, le coronavirus, qui semble particulièrement contagieux. C'est une forme effectivement violente de pneumonie. Mais surtout, l'annonce de la tenue de cette réunion était pour l'OMS l'unique moyen de forcer les autorités chinoises à reconnaître la réalité du problème et à communiquer les données scientifiques recueillies par leurs médecins. Parce que pendant 15 jours, en fait, depuis le nouvel an, alors que plusieurs malades avaient déjà été détectés en Thaïlande, à Taïwan, au Japon, en Corée du Sud, et que tous venaient de la ville chinoise de Wuhan, Pékin nier farouchement l'existence de ce foyer d'infection et se refuser à limiter les déplacements dans cette région. Ce qui fait qu'on a découvert de nouveaux cas aux Philippines, en Australie. Il commençait à être temps d'agir.
Ouais, donc on était même au-delà du mutisme, hein, si je vous comprends bien.
Absolument.
Alors maintenant, la Chine accepte de collaborer.
Oui, alors la Commission nationale de la santé a obtenu l'autorisation de coopérer avec l'OMS. Elle a publié ces chiffres qui font état de 6 morts, 922 patients mis en observation et 291 cas confirmés de coronavirus. Alors pour mémoire et en élément de comparaison, l'épidémie de 2003 de SRAS, qui semble être une souche virale assez proche, avait tué 774 personnes dans le monde, dont 650 en Chine, sachant qu'à cette époque, Pékin avait menti pendant 4 mois avant de reconnaître l'ampleur de la crise, ce qui avait laissé beaucoup de temps à la contamination. Alors certes, le Parti communiste chinois n'est pas encore un exemple en matière de transparence, mais l'action déterminée de l'OMS a quand même permis de gagner là, un temps précieux.
Et en tout cas, les premiers conseils, j'allais dire, le ministère des Affaires étrangères qui dit évitez les marchés, la viande peu cuite si vous êtes
absolument
sur place. On en saura plus demain. Merci beaucoup Didier François. Demain dans nos vies, c'est avec vous Théophile Cossa. C'est comme ça qu'on écoute le monde changer et que vous nous le proposez chaque soir. Une séance chez le psy d'ailleurs. On va s'allonger chez une psychiatre un peu spéciale.
Oui, Nathalie, elle s'appelle Julia. Elle a presque tout d'une vraie psy, sauf que Julia est un robot.
J'en étais sûr.
La toute première psychiatre virtuelle en exercice, créée par des chercheurs du CNRS. Julia est française et consulte à la clinique du sommeil du CHU de Bordeaux.
Alors, elle est sympa. Allons-y.
Imaginez placer dans une salle de consultation de la clinique un grand écran sur lequel est affiché le visage d'une femme, Julia. Face à cet écran, un patient qui va s'entretenir avec la psychiatre virtuelle. Comme une vraie psy, Julia va lui poser tout un tas de questions précises et va dresser, en fonction de ses réponses, un diagnostic sur des pathologies comme la dépression ou l'addiction au tabac et à l'alcool. Un premier diagnostic virtuel qui sera ensuite remis à un vrai médecin.
Mais attendez, elle répond quand même, elle échange, ça fonctionne vraiment
Eh bien, c'est ça le plus dingue. Les retours sont très positifs. Plus de 300 patients se sont retrouvés face à cet écran et beaucoup d'entre eux ont constaté qu'il était en fait plus simple de parler et de se confier à un robot à qui ils n'ont pas peur de tout dire.
De confier, c'est
exactement
ça.
Exactement, ces entretiens qui peuvent durer pendant 35 à 40 minutes. Une technologie qui permet de réduire la durée des consultations avec de vrais médecins et donc de limiter les attentes. Prochaine étape, une application pour smartphone qui doit arriver avant la fin d'année et qui permettra aux patients en zone rurale de pouvoir consulter de chez eux, allongés sur leur propre divan face à Julia.
Ouais, donc à partir de ce soir, on peut commencer à parler à notre sèche-linge. Merci Théophile.
Europe 1. À suivre dans la prochaine demi-heure, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres et puis tout pour tenir jusqu'au printemps dans vos vies, dans nos vies. On va avoir le sourire, on est aidé dans un instant avec notre invité.
Et si vous aussi vous avez des astuces pour lutter contre la dépression hivernale, n'hésitez pas, 39-21. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres, Sébastien Krebs.
Le procureur démocrate dénonce déjà une procédure truquée. Le procès en destitution de Donald Trump vient de s'ouvrir devant le Sénat américain. Acquis au président, qui devrait l'acquitter d'ailleurs. Donald Trump, depuis Davos, dénonce une farce. À retenir également ce soir, le nombre de demandes d'asile déposées en France a augmenté de 7% en 2019. Chiffre du ministère de l'Intérieur. Une bonne nouvelle pour les salariés d'Airbus. Une nouvelle ligne d'assemblage va être installé à Toulouse pour son A321. Cet avion qui connaît un très gros succès commercial, il sera fabriqué à la place de l'A380 qui s'arrête en 2021. Et puis le foot, première demi-finale ce soir de la Coupe de la Ligue. Lyon-Lille, coup d'envoi 21h10.
Merci Sébastien, l'info revient avec vous demain, 18h sans faute. Anissa, vigilance orange dans le sud, soyez prudents.
Oui, effectivement, sur les Pyrénées-Orientales, avec cette tempête Gloria qui touche assez fortement le département des Pyrénées-Orientales depuis hier maintenant. Alors ça va durer encore quelques jours, mais la plus forte période est attendue pour cette nuit, avec des pluies très soutenues. Il faut savoir que sur l'ensemble du passage de la tempête, on attend presque 3 mois de pluie sur quelques jours. D'ailleurs, là, cet après-midi, 10 mm par heure sont tombés sur Perpignan et les environs. Alors, il faut savoir que demain, la neige va continuer de tomber dans le secteur à partir de 1600 mètres. Donc, la limite pluie-neige, elle remonte bien. À l'ouest de cet épisode méditerranéen, sur l'Occitanie, le Massif central et le Delta du Rhône, eh bien là, ce sont des petites pluies locales qui risquent de s'abattre demain après-midi. Sur les Cévennes, il neige partout ailleurs. La journée est beaucoup plus calme. Attention tout de même demain matin à l'est avec des brouillards givrants si vous devez prendre la route. Et puis je vous le dis, sur le reste de la France, sur toute la moitié nord, c'est du grand et beau soleil dans un ciel bleu avec des températures toujours fraîches. Moins 5 degrés à Montluçon, moins 3 à Besançon, moins 1 à Paris et jusqu'à 10 degrés demain matin à Marseille.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec votre invité ce soir. Et ensemble, nous allons essayer de lutter contre la dépression saisonnière et notamment la dépression hivernale.
Oui, et pas seulement d'ailleurs, on va être aussi bien plus large que ça avec vous, entre autres Natacha Calestrémé. Bonsoir, bienvenue dans ce studio.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, réalisatrice, écrivain et vous avez signé La clé de votre énergie aux éditions Albin Michel qui cartonne et on comprend pourquoi. Et le psychiatre Antoine Pellissolo est avec nous également. Bonsoir à vous. Vous êtes
Bonsoir.
En ligne et vous êtes chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. Natacha Calestrémé, il y a cette phrase en quatrième de couverture, je suis vidée. Je suis vidée. C'est vrai, on est vidée. Alors particulièrement en hiver, oui, me semble-t-il, mais on a souvent, c'est récurrent pendant l'année, je suis vidée, je suis au bout de mes forces, je suis épuisée. À quoi cela est lié ?
Alors, je dirais que tout le monde a des moments, effectivement, dans la saison où on est un peu à plat. Et puis, il y a des moments de la vie où ça peut durer même plusieurs années, où tout s'effondre. C'est un peu ce qui m'est arrivé sur le plan familial, sur le plan du travail, sur le plan sentimental, sur même au niveau de la santé, tout s'est écroulé. Et je ne savais plus comment faire. Je perdais de l'énergie, j'étais vidée. Et en tant que journaliste, j'avais interviewé des chamans, des guérisseurs, des médiums. Je les avais écoutés avec curiosité et bienveillance, mais ça ne me parlait pas trop. Et puis, quand j'étais au bout du rouleau, je me suis souvenue de ces techniques qu'ils avaient partagées avec moi. En fait, c'était des personnes comme vous et moi, qui étaient architectes, préparateurs en pharmacie, et qui avaient tutoyé la mort, une grave maladie, et qui avaient trouvé leur don. Et ils avaient partagé avec moi les techniques qui leur avaient permis de s'en sortir.
Voilà. Oui, c'est ça, de s'en sortir, de relever la tête. C'est ce que vous allez partager avec nous ce soir. Hein, j'espère bien, les techniques, on les veut dans un instant. Je pose la question aussi à Antoine Pellesillo, puisque vous êtes psychiatre. Un mot peut-être, parce que la période est là. Hier, on parlait du Blue Monday, le blues de l'hiver quand même. Si on en reste là pour l'instant, j'ai lu qu'un Français sur cinq était concerné, docteur. On est donc quand même très nombreux à en être victime. Hein. C'est pas une vue de l'esprit.
Oui, c'est pas une vue d'esprit, c'est-à-dire que c'est quasiment normal, sans forcément être trop, touché par quelque chose qui n'est pas d'une grande gravité. Hein. Heureusement, ça reste une variation de la normale à une période de l'année où on va avoir moins d'énergie, on va avoir une humeur un petit peu plus morose. Et heureusement, ça va revenir au printemps. Pour certaines personnes, en gros, ça, l'hiver va être un petit peu plus difficile
à passer. Ouais.
Voilà, il va falloir travailler un peu pour augmenter son humeur et c'est tout à fait faisable.
Alors vous allez nous dire comment aussi dans un petit instant, quelle clé également. Comment on fait ? On est évidemment consécutivement à des gros problèmes, à des troubles d'ordre professionnel, familiaux, etc. On peut connaître ces baisses de régime, je vais appeler ça baisse de régime pour l'instant, mais au-delà de ça, Natacha Calestré, qu'est-ce qu'on vous a donné comme clé alors ? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme orientation ?
Ce que j'explique, parce que le but du livre c'est de rendre autonomes les personnes, c'est que d'être attentif au cycle. Une maladie qui revient, on a pris l'habitude de que ce soit normal, c'est pas forcément normal. Une épreuve qui revient, toujours les mêmes problèmes sentimentaux, toujours les mêmes problèmes avec un patron, toujours les mêmes problèmes dans la famille, ce sont des signaux en fait que l'univers, on va dire, dans sa bienveillance, nous montre quelque chose qu'on doit comprendre. Et en faisant attention à ces cycles qui reviennent, j'ai essayé de mettre en évidence le fait que très souvent, une épreuve ou un problème de santé trouve son origine sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que scientifiquement, je me suis penchée sur la médecine chinoise, qui a 4000 ans d'existence, et qui montre que finalement, à l'origine d'un problème de santé, il y a souvent un problème émotionnel.
Mais ce n'est pas évident, pardonnez-moi, je vous arrête 30 secondes, mais ouais. Natacha Calestré, on sait qu'effectivement notre passé, notre passif, notre histoire personnelle, etc., souvent peut générer ces signaux, ces cycles qui reviennent, etc. Mais ça veut dire qu'il faut s'allonger. J'allais dire sur le canapé de Julia, la psy, entre autres, parce que si c'est très ancré.
Alors, je vais plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on hérite, que l'on a de la petite enfance, et c'est très bien d'aller voir effectivement un psy. Sauf qu'on n'a pas pris l'habitude d'aller voir un psy pour une gastro, par exemple. Or, sur le plan émotionnel, quelle que soit la thérapie, on peut y aller. Mais surtout, je donne les clés pour essayer de s'en libérer soi-même. Et il y a aussi un phénomène qui est assez étonnant, c'est que parfois, on a des problèmes récurrents qui ne viennent pas de nous, mais qui sont hérités de nos grands-parents. Je ne sais pas si vous avez un deuxième prénom, mais parfois, notre deuxième prénom, fait écho à un problème que l'on a. Par exemple, moi, mon deuxième prénom est celui de ma grand-mère et j'avais hérité du fait que ma grand-mère était dans l'ombre de mon grand-père. Et moi, à un moment de ma vie, j'ai été dans l'ombre de mon mari. Et j'ai mis en place le protocole numéro 7 du livre. Et ça a changé toute ma vie.
Vous allez m'expliquer, évidemment, je suis très curieuse. On est tous très curieux et ça va évidemment se poursuivre au 39-21 avec les auditeurs. Savoir comment procéder sans forcément s'allonger chez le psy. Avec vous aussi, Antoine Pellesillo, psychiatre. Donc merci d'être avec nous en ligne. À tout de suite.
N'hésitez pas à réagir en direct, à venir poser vos questions au 39-21 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. C'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité. Vous recevez l'auteur de La clé de votre énergie paru chez Albin Michel pour nous aider à passer un meilleur hiver et une meilleure vie, Nathalie Lévy.
Oui, une meilleure vie, exactement. Natacha Calestrémé est avec nous. Antoine Pellissolo, psychiatre, chef de service CHU. Henri Mondor est avec nous également depuis Créteil. Antoine Pellissolo, vous avez écouté la réponse de Natacha Calestrémé et même le process qu'elle nous explique il y a quelques instants. Ces signaux, ces cycles qui reviennent dans nos vies parce que cet héritage, parce que le poids des circonstances, de la famille, etc. On peut effectivement, avec des process, avec des règles ou avec une manière de procéder, s'en sortir, sans passer par une consultation au long cours.
Alors tout dépend de la situation, évidemment, quand on parle de troubles, de maladies psychiques, hein, de dépression notamment, je pense que le recours médical est quand même assez indispensable, avec des méthodes qu'on sait bien manier, avec des traitements ou des psychothérapies. Mmh. Là, je pense qu'on s'adresse plus notamment en hiver, je vous disais tout à l'heure, à des adaptations un peu difficiles, à des conditions de vie, à une baisse par exemple de luminosité, tout bêtement. Donc c'est dans notre biologie des périodes où on est plus fatigué un petit peu, on a moins d'énergie, moins d'envie. Donc moi, ce qu'on peut tout bêtement conseiller, c'est des choses peut-être un petit peu plus simples que ce qu'a évoqué votre invité, c'est de recréer des moments de plaisir ou de bonne humeur en relançant la machine, on peut dire.
Et ça, c'est deux choses. En relançant la machine, ça veut dire quoi, par exemple?
Alors, en relançant les choses qui d'habitude font plaisir et que par un peu auto-conditionnement, on s'est dit que bon, comme c'est l'hiver, de toute façon, ça va mal aller, donc on fait moins de choses et donc forcément, on a moins d'occasions de se sentir bien. Donc c'est l'activité physique, activité culturelle, stimuler son cerveau, être à plusieurs, profiter des bons moments, alors qu'il fait un peu plus, c'est vrai qu'il fait un peu plus sombre, mais sortir c'est vraiment essentiel parce que c'est la luminosité qui va redonner les substances de la bonne humeur dans le cerveau. Donc tout ça c'est tout à fait faisable avec un petit peu juste d'effort et de conviction que ça peut marcher.
Merci beaucoup Antoine Pellissolo, psychiatre, chef de service CHU Henri Mondor à Créteil. Natacha Calestrémé, on sort de l'hiver avec vous, on est beaucoup plus large, on est dans la vie, dans nos vies, dans tout un parcours de vie. Et vous nous parliez évidemment de ces signaux, de ces cycles qui reviennent et qui nous plombent, si je peux me permettre l'expression. Donnez-nous alors des clés, clairement, ce soir, pour qu'on ne soit pas plombé, qu'on ne soit pas retourné par ces héritages, parfois, par ces parcours, le poids d'une famille, etc.
Alors, c'est difficile de partager des protocoles parce que chaque protocole, c'est un chapitre entier dans le livre. Ce que je dirais, c'est que en étant attentif à ces cycles, et ce que je propose tout au long du cheminement du livre, c'est de voir où sont les blocages, où sont les culpabilités.
On peut les trouver soi-même ?
Oui, j'explique vraiment point par point. Et puis, de voir des choses qui sont dépendantes de notre enfance, des choses que l'on a héritées. Et puis, il y a des aides subtiles. Il y a des aides subtiles que les Chinois, les Indiens de l'Inde et le Japon, qui font partie du top 5 des pays les plus riches au monde, utilisent, ce qu'ils appellent le noble céleste, et qui sont ces énergies subtiles, en fait, qui peuvent vraiment nous aider.
Ouais. Donc, vous nous apprenez à devenir autonomes. D'ailleurs, c'est ce qu'on commente, c'est ce que certains psychiatres ont dit sur votre livre et sur les méthodes, en fait, que vous prodiguer. Autonome, mais bon, je ne vais pas insister, mais quand même, en quelques éléments.
Si vous voulez, le principe, c'est qu'on repose tout sur le fait que notre corps est constitué de milliards de molécules, que chaque molécule, c'est 0,01% de matière, le noyau, et 99,99% de vide. Sauf que grâce à la physique quantique, ce vide est en réalité rempli d'énergie et d'informations. Et les protocoles que je donne, ce sont des phrases, des informations
qu'on doit se répéter,
l'on doit dire en imaginant la personne en face avec qui on a le problème, et on le dit avec une certaine énergie. Mmh. Et donc, quand notre corps il est constitué de 99 fois plus d'énergie, d'information que de matière, et qu'on donne de l'information et de l'énergie, on s'adresse à 100% de ce qui nous constitue. Et quand je disais que ça a changé ma vie, c'est peu de le dire. C'est-à-dire que...
Mais seul alors, vous avez été seul en face de vous-même, si
seul.
Je comprends.
Et
tout.
Alors, je tiens à préciser, c'est que j'ai beaucoup de thérapeutes qui viennent me voir, et notamment des hypnothérapeutes, parce que c'est le même principe, on va dire,
c'est complémentaire,
qui est utilisé.
Hein.
Et pour assurer les cartésiens, il y a ce que la médecine de pointe, qui est la psychoneuroimmunologie, qui part du principe qu'un stress peut faire baisser l'immunité de la personne.
C'est fou, ça.
Voilà. Et donc, là, qu'est-ce que c'est ? Un stress, c'est une émotion. Donc, en fait, une émotion, quand on dit à quelqu'un « Ah, t'as un petit peu grossi » et qu'on a une angine derrière, l'angine, et c'est ce que j'explique dans le livre, le corps a du mal à dire, le fait qu'on a eu du mal à dire qu'on n'est pas d'accord, voilà. Et qu'en général, on a mal à la gorge, c'est quelque chose qu'on a voulu crier très fort et on n'y est pas arrivé, soit parce que la personne nous en empêche, soit parce qu'on s'en empêche soi-même. Mmh. Et sachant ça, j'explique, je donne des clés, je suis désolée, c'est difficile.
On voudrait une clé au moins pour dépasser, j'allais dire, peut-être sur un cas assez récurrent.
Alors moi, je dirais plutôt, posez-vous la question. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre? D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que c'est sur le plan sentimental, financier, etc. Mmh. Deuxième question, qu'est-ce qui bloque? Et posez-vous vraiment, est-ce que c'est un problème de reconnaissance, un problème de place, un problème de peur? Et après, mettez le nom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents et les personnes dont vous portez le prénom. Et regardez s'il y a quelque chose qui se rejoue. Parce que très souvent, dans la maladie ou l'épreuve, à partir du moment où on réalise quelque chose qui se rejoue, c'est le début de la guérison. Et après, je donne absolument toutes les clés. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai voulu partager ça avec le plus grand nombre.
Je donne même des
techniques pour enlever les brûlures, ce que les barreurs de feu font. Voilà.
Merci beaucoup. On va regarder de près et examiner nos familles dès ce soir en rentrant à la maison.
C'est le but.
C'est comme ça qu'il faut commencer. Donc, si on comprend bien. Merci beaucoup, Natacha Calestrémé. La clé de votre énergie. C'est un énorme succès numéro 1 des ventes sur Amazon. Hein.
Parce que Fnac, etc. Partout. Voilà.
Ouais, et c'est chez Albin Michel, donc un ouvrage d'utilité publique. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, on va au cinéma ?
Oui, Mathieu Charry va arriver normalement pour nous dire ce qu'il faut aller voir demain dans les
salles. Restez avec nous, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h et c'est parti, on s'enferme dans les salles obscures avec notre spécialiste cinéma, Nathalie Lévy.
Ça y est, on est dans le noir avec vous, Mathieu Charry.
Je vous en prie.
Allez, par un film américain, Scandale et film Europe 1.
Oui, qui revient sur l'affaire de harcèlement sexuel qui a fait tomber Roger Ailes. Vous savez, c'était le célèbre et puissant patron de Fox News. Alors, il y a une série qui existe, elle s'appelle The Loudest Voice. Et voilà donc le film. On est en 2016, c'est plus d'un an quand même avant l'affaire Weinstein. Et depuis des décennies, Roger Ailes murmure à l'oreille des grands dirigeants américains, de Nixon à Trump, grâce donc à cette chaîne Fox créée avec Murdoch pour concurrencer alors CNN. Sauf qu'on découvre dans le film que dans le même temps, il a arraché aux présentatrices des faveurs sexuelles en échange de promotion. Son principe, il était assez simple. Prouvez-moi votre loyauté par le moyen que vous voulez. Vous savez, avec un regard bien libidineux, évidemment. Tout le monde savait, mais personne ne disait rien, jusqu'à ce que l'une d'entre elles, Megyn Kelly, décide de tout balancer. Elle est incarnée à l'écran par Charlize Theron.
Je crois qu'aujourd'hui, on peut regarder ces histoires et voir à quel point elles sont universelles. Elles sont dans l'actualité, les gens en parlent. Et c'est génial de revenir au point de départ, à ces gens qui ont tout déclenché, parce qu'ils étaient vraiment les premiers. Et aujourd'hui, c'est indéniable, c'est une histoire que les gens ne peuvent plus ignorer. Et il est temps d'aller s'asseoir dans une salle de cinéma, de regarder et d'en profiter, d'être dévasté, d'être en colère, d'être triste, mais aussi d'en rire, tellement c'était absurde ce qui s'est passé.
Voilà, Nicole Kidman et Margot Robbie composent également ce trio de femmes qui va renverser Roger Ailes. Chaque jour, elles passaient 3 heures au maquillage, ces actrices. Oui, vous savez, parce qu'on fait beaucoup la critique, on dit oui, elle botox, faut arrêter, etc. Non, en l'occurrence, là, c'est parce qu'elles voulaient ressembler le plus possible aux vraies présentatrices, parce qu'aux États-Unis, c'est devenu des stars, mais évidemment, on les connaît un peu moins. La force du film, c'est aussi que l'on voit le processus qui pousse cette présentatrice à dénoncer son patron. Et on voit bien comment ensuite, elle est vraiment marginalisée au sein de Fox News par toute la cour de Roger Ailes, composée évidemment de jeunes présentatrices. C'est un film très pédagogique, très romanesque aussi, grâce au courage de ces femmes. Ça s'appelle donc Scandale. Et moi, je dis, ça devrait être montré dans les écoles pour comprendre tout ce phénomène d'harcèlement sexuel.
Et en plus, aider d'autres femmes à parler. Oui, on l'a dit.
Ah, pardon.
C'est bien, vous avez suivi. Hein.
Voilà,
et pour aider d'autres femmes à parler,
exactement,
on répète
briser
ça.
La loi du silence.
Également en salle aujourd'hui, photographe.
Réalisé par l'Indien Ritesh Batra, qui avait déjà fait, vous savez, The Lunchbox et qui a ce talent de faire des films romantiques et poétiques. Alors en l'occurrence, c'est l'histoire d'un photographe pour touristes, vous savez, qui travaille à Bombay. Sa grand-mère va mal, elle aimerait tellement qu'il ait une compagne. Alors, il lui fait croire que l'une des jeunes filles qu'il a photographiées la veille est sa nouvelle petite amie. C'est facile, il a le double de toutes les photos. Sauf que pour aller au bout, il va demander à cette jeune fille de bonne famille de jouer le jeu. Elle accepte, début de ce récit qui oppose deux Indes, une Inde populaire, de la débrouille dont fait partie ce photographe, et puis une Inde des classes moyennes qui a un peu tendance à oublier ses principes, c'est la famille de la jeune fille. Mmh. Voilà, c'est un joli film qui s'appelle donc Le Photographe.
Et puis, du côté des films français, on commence par Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, adapté du roman d'Anna Gavalda, j'en connais qui ont versé quelques larmes.
Oui, un certain Thierry Dagiral, rédacteur en chef de cette émission.
Citer, voilà.
On est à la fin de l'été dans une belle maison familiale où Aurore, la maman, fête ses 70 ans, entourée de ses quatre enfants. Alors il y a deux frères, Benjamin Lavergne et Jean-Paul Roux. Jean-Paul Roux, il a un peu endossé le rôle du père de famille depuis la mort de ce dernier. Et puis il y a deux sœurs, dont Alice Taglioni, qui se rêve romancière, la seconde étant photographe. Et c'est le destin de tous ces personnages que l'on va suivre, entremêlés, chacun avec ses rêves, ses frustrations, ses libérations, avec tout ce que vous pouvez accumuler au fil de votre vie. On rejoint un petit peu l'invitée précédente. Dans le roman, c'était une succession de nouvelles que le réalisateur Arnaud Viard a donc magnifiquement assemblées. Et tout tourne autour de ce frère incarné par Jean-Paul Roux.
Il se met dans une position dans cette famille, comme s'il voulait remplacer le père un peu. Donc il a la position du mec fort. Donc forcément, en jouant les gros bras, les gens ne le voient pas. Ils montrent rien. Souvent, les gens qui aident les autres, ça devient presque naturel. Et jamais on leur demande « Et toi, comment tu vas ?» On oublie. On se dit « Tiens, il va bien. S'il s'occupe de nous, c'est que lui, il va bien. » C'est comme ça que ce personnage glisse tout doucement. Il a beaucoup de regrets. Il avait des rêves en étant jeune. Ça lui revient à 50 balais, ça lui revient dans la gueule. Il avait enfoui tout ça et là, ça lui remonte d'un coup.
Voilà, c'est un mélo assumé et efficace. Moi, je l'ai trouvé bouleversant. Je l'avais découvert ce film au festival, vous savez, du film francophone d'Angoulême, donc à la toute fin de l'été. C'est un festival de public, c'est-à-dire comme l'Alpe d'Huez, on en parlait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a du public dans les salles. Et je peux vous dire que c'est un film qui fonctionne aussi sur le public, que les gens regardent, même ceux qui ont lu le livre, ceux qui ne l'ont pas lu.
Parce c'est
que
complètement universel.
C'est complètement universel. Voilà. Après, il faut aimer le mélo qui va au mais bout, jusqu'au bout du temps.
Et puis Jean-Paul Rouve, il est excellent dans tous les registres,
Jean-Paul
en Rouve, définitive.
Il nous prouve en définitive qu'il sait absolument tout jouer, c'est-à-dire qu'il sait jouer Jeff Tuche dans la comédie un peu potache, et il sait jouer là ce frère dans un rôle très dramatique. Je ne veux pas trop en dire, mais voilà, très dramatique.
Bon, alors voilà, ce grand 8 d'émotion dans ce film. Et puis, Adoration.
Oui, alors ça, est-ce que vous vous rappelez du jeune acteur Thomas Joria que l'on avait découvert dans Le Glaçant jusqu'à la garde? Ça vous dit quelque chose,
oui,
vous savez,
sûr.
Denis, voilà,
ouais,
il jouait l'enfant du couple Ladruccard, Denis Ménochet. Alors, dans Adoration, c'est aussi lui qui joue le rôle principal et qui porte, moi, je trouve, le film. C'est un peu effrayant aussi, d'ailleurs, ce film, à certains moments. Il s'appelle Paul, c'est un jeune garçon qui, figurez-vous, va fuguer avec Gloria, l'une des patientes de l'hôpital psychiatrique dans lequel travaille sa maman. Il y a une grande et belle histoire d'amour qui va se nouer entre ces deux-là, à travers un récit initiatique que l'on va suivre, mais avec cette question toujours en toile de plomb, Gloria est-elle victime d'un complot, comme elle le prétend, ou est-elle réellement atteinte de syndrome de problèmes psychiatriques? On le découvrira au film de ce film, qui est un film poétique, violent par moments, surtout à la photo qui est absolument magnifique, ultra réaliste. Moi, je suis un tout petit peu déçu par le dernier tiers du film, dans lequel on apparaît notamment un certain Benoît Poulvord. C'est pour
vous voyez, dommage.
Quand la tête d'affiche arrive, moi je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, vraiment, si vous êtes cinéphile, c'est ce genre de film à aller voir absolument. Voilà, pour l'image qui est léchée, pour la réalisation, pour la mise en scène, pour le jeu des acteurs. C'est le genre de film qu'il ne faut pas louper. Ça s'appelle donc Adoration.
Ouais, ça sort vraiment des sentiers battus.
Exactement.
Hein. C'est ce qui est dit avec ce jeune, donc assez insensé.
Formidable. Un acteur formidable. Il faut retenir son nom, Thomas Joria.
Voilà, une vraie découverte. Merci Mathieu Charrier.
Je vous en prie.
On est toujours content de vous voir.
Mais
le mardi
aussi,
soir.
Dans le noir.
Vous êtes.
Il a compris le message.
Merci à vous. Anissa, on va aller écouter Émilie Mazoyer ce soir. Ce n'est pas elle qui sera sur scène, mais avec ses petits camarades, ça va pulser et on commence avec Thérapie Taxi. C'est un extrait de ce qu'on va pouvoir entendre ce soir en concert. Et j'ai des millions d'envies de te plaire. Fleur, je m'allume, on devient obsession. Sur le bitume, on sourit à l'instant. Ah oui, parce que juste après les informations, le journal d'Isabelle Millet, pour être exact, Émilie sera en public et en direct du studio Bellemare pour le concert privé de musique. Et c'est jusqu'à 22h avec sur scène ce soir, donc, ce groupe Thérapie Taxi, mais aussi la chanteuse Rose et Flavia Coelho. Tout un programme à écouter. Montez le
ça
son.
Ça va être chouette. Beau plateau. Hein.
Voilà.
Très, très beau plateau.
Et on la retrouve demain, Émilie Mazoyer, nous, juste à côté. On est ensemble jusqu'à 20h chaque soir, de 18h à 20h. Si vous nous êtes fidèles, on vous en remercie. L'information, le sourire, la bonne humeur et les auditeurs au 39-21. On reste ensemble. On se retrouve demain, Anissa.
Bien sûr, à 18h pile.
À tous et à toutes, et restons ensemble pour écouter le monde changer.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Europe 1.